18h-20h, Philippe Vandel sur Europe 1.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour 2 heures d'infos avec du sport. Les médias avec Nathalie Yanetta qui revient sur TF1 à l'occasion de la Coupe du Monde féminine de foot quand elle était conseillère sport du président Hollande à l'Elysée. Nathalie Yanetta avait œuvré pour que cette compétition se déroule en France. Maintenant, c'est fait. Je suis donc particulièrement heureux qu'elle soit avec nous. Il y a des dossiers aussi. General Electric, Whirlpool, Ascoval. C'est une série noire annoncée sur le plan industriel. Le plus symptomatique, General Electric, le géant américain qui avait racheté Alstom en promettant la création de 1000 emplois, a annoncé mardi son intention de licencier 1044 collaborateurs. L'État ne peut pas tout, disait Lionel Jospin, mais que peut-il faire? Réponse avec la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, Agnès Pannier-Runacher. Les élections européennes sont à peine digérées, on passe aux municipales. Hier, le parti Europe Écologie Les Verts a élu sa tête de liste pour Paris 2020. Ce sera le chef de file du groupe Les Verts au Conseil de Paris, David Belliard. Pour faire quoi? S'associer à Anne Hidalgo comme actuellement, ou alors faire cavalier seul comme Yannick Jadot aux européennes? David Belliard sera à ce micro en direct pour nous répondre. Ce sera sa première interview radio depuis son élection. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Philippe et bonsoir à tous. N'hésitez pas à réagir en publiant un commentaire ou plusieurs même sur les réseaux sociaux. Hashtag Europe 1 sur Twitter. 18h. Bonne fin de week-end à tous. Le journal, Fabienne Lemoyle, Philippe Vandel.
Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Philippe.
Au sommaire de votre journal ce soir.
Nouvelle condamnation à mort en Irak de 2 Français jugés pour leur appartenance à l'État islamique. La réaction dans ce journal de la porte-parole du gouvernement. Une vidéo de 7 minutes où il parle d'un piège. C'est la réponse de Neymar cette nuit aux accusations de viol portées contre lui par une jeune femme brésilienne. Posant toute discrétion d'Emmanuel Macron au fort de Brégançon ce week-end avant une semaine marquée par les cérémonies des 75 ans du débarquement en Normandie, le chef de l'État qui vient de quitter le fort. L'hommage à Michel Serres de l'académicien Jean-Marie Roire dans ce journal. Et puis patience sur les routes ce soir avec déjà un trafic important vers Paris, 170 km de bouchons en région parisienne.
Europe 1. Nouvelle condamnation à mort pour 2 Français en Irak.
Et c'est la porte à 9, le nombre de condamnés pour appartenance à l'État islamique condamnés à mort. 9 condamnations en une semaine. Et ce matin, sur Europe 1, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a rappelé la position de principe de l'État français d'intervenir quand la peine capitale est prononcée contre un de ses ressortissants à l'étranger, Marguerite Lefebvre.
Oui, c'est une doctrine que le président de la République avait réaffirmée mardi dernier et que Sibeth Ndiaye a donc rappelé ce matin. La France s'est toujours engagé et s'engage encore aujourd'hui pour éviter la peine de mort à ses ressortissants pour tenter de commuer ses peines capitales en peine de prison à vie. Écoutez la porte-parole du gouvernement qui était l'invité du Grand Rendez-vous.
Dès lors que nos concitoyens à travers le monde, c'est aussi le cas dans d'autres pays du monde, hein, pas uniquement en Irak, sont après une condamnation potentiellement soumis à la peine de mort, nous intervenons au plus haut niveau de l'État. La justice irakienne se fait dans de bonnes conditions, avec une défense qui est présente. Ces Français-là, ils ont le droit, comme les autres, à la protection consulaire.
Affirmation démentie en bloc par les avocats des Français détenus en Irak. Ils dénoncent une justice expéditive en Irak. Les droits de la défense ne sont pas respectés à Bagdad, selon maître Vincent Brengart, avocat de plusieurs djihadistes.
On a le sentiment de réalité parallèle. On s'est rendu l'année dernière en Irak, on a vu la justice irakienne à l'œuvre. On n'a pas eu la possibilité d'avoir accès au dossier. On peine à croire évidemment au caractère équitable de cette justice. L'état de droit ne doit pas reculer.
C'est en tout cas cette justice irakienne qui doit juger 2 autres Français demain. 2 Français qui risquent eux aussi la peine capitale.
Marguerite Lefebvre.
La contre-attaque de Neymar après les accusations de viol portées contre lui par une jeune femme brésilienne.
Une jeune femme qui a porté plainte à Sao Paulo au Brésil alors que les faits se seraient déroulés en France le 15 mai dernier. Des faits que dément totalement l'attaquant. C'est dans une vidéo publiée cette nuit sur Instagram, Simon Rubin.
Oui, une vidéo de 7 minutes hein, dans laquelle le joueur, face caméra, décide d'abord de nier les accusations en bloc.
On m'accuse de viol. C'est lourd, c'est très fort. Et ça m'a surpris. Cette accusation est tout simplement horrible. Car les gens qui me connaissent savent quel genre de personne je suis. Savent que jamais je ne commettrai un viol.
Ce message-là, il va le répéter à plusieurs reprises avant d'amorcer la deuxième partie de la vidéo et donc de sa défense. À ce moment-là, il va exposer les messages échangés avec la plaignante pendant 2 mois, du 11 mars au 16 mai 2019. Dans ces messages, on découvre que la jeune femme a contacté Naïmar par Instagram, puis qu'ils ont flirté très rapidement. Elle lui envoie des messages d'elle, des photos plus ou moins dénudées, et lui répond très régulièrement jusqu'à l'inviter à Paris. Il lui paye le billet d'avion. Une fois la jeune femme à Paris, Naïmar lui aurait rendu visite dans son hôtel et l'aurait forcé à avoir une relation sexuelle non consentie. Ça, c'est ce qu'on apprend dans la plainte, dont un extrait est révélé par la presse brésilienne. Naïmar assure lui être innocent et victime d'une tentative d'extorsion.
Simon Rubin, et on vous retrouvera dans quelques minutes pour le journal des sports.
Les gilets jaunes, de nouveau dans la rue aujourd'hui à Paris.
Ils étaient entre 300 et 400 entre Bastille et Nation pour un rassemblement baptisé Marche des Mutilés. Ils réclament l'interdiction des lanceurs de balles de défense, responsables de nombreuses blessures. En tête de cortège, Jérôme Rodriguez, lui-même blessé à l'œil.
On est quand même, je crois, à pratiquement plus de 2000 blessés par les forces de l'ordre, en tout cas pendant les manifestations. 174 affaires apparemment en cours ou en traitement, 282 impacts dans la tête. On est très très loin du compte, très très loin du compte. Et beaucoup aujourd'hui de blessés n'ont pas la possibilité de pouvoir pousser la porte d'un commissariat, de pouvoir porter plainte dans de bonnes conditions, ou n'ont peut-être pas les compétences ou même les moyens financiers d'aller voir un avocat pour pouvoir défendre leur cause. Et c'est ça qui est regrettable parce que le chiffre serait beaucoup plus énorme en tous les cas. Psychologiquement, quand on se retrouve seul face à soi-même, ça peut être compliqué. Parce qu'il y a déjà le physique qui te rappelle tous les jours que tu as un problème quand même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de perdre un œil, ça a un impact, si je peux jouer sur les mots, qui est pas mal conséquent. Moi, je vais continuer à me battre.
Jérôme Rodriguez, ce matin à Paris avec Yasmina Katou.
Europe 1.
Dans un instant, nous partons pour le fort de Brégançon dans le Var, où le président Macron a joué la discrétion en ce week-end prolongé de l'Ascension.
Il est 18h07, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle, Philippe Vandel.
Direction Brégançon dans le Var.
Le fort de Brégançon, Emmanuel Macron s'est accordé une pause en famille pour le week-end de l'Ascension. Fort de Brégançon qu'il vient juste de quitter. Adrien Beck, vous êtes sur place pour Europe 1 et le président s'est montré très discret tout le week-end.
Et oui, dans une voiture noire aux vitres teintées, sans escorte, le couple présidentiel a franchi le portail du fort il y a une bonne demi-heure. Maintenant, un départ à l'image de ces 4 jours ici en toute discrétion. Aucune apparition publique, aucun bain de foule, à tel point que beaucoup de touristes présents ici au pied du fort n'ont même rien remarqué, tant le dispositif de sécurité était réduit au strict minimum. Rien n'a filtré non plus des activités d'Emmanuel et Brigitte Macron. Tout juste nous a-t-on fait savoir du côté de l'Elysée au tout début du week-end qu'Emmanuel Macron travaillait au calme. Ce soir, c'est donc retour à Paris pour le chef de l'État. Dès demain matin, conseil des ministres exceptionnellement avancé pour cause d'anniversaire du débarquement de Normandie cette semaine, séquence mémorielle et internationale pour Emmanuel Macron qui se rendra mercredi à Portsmouth en Angleterre avant d'accueillir le président américain Donald Trump le lendemain à Caen dans le Calvados.
Adrien Beck à Brégançon pour Europe 1.
Emmanuel Macron discret donc, mais qui a toutefois rendu hommage à Michel Serres.
Un grand intellectuel au service de tous a salué le président dans un communiqué alors que le philosophe est mort hier à l'âge de 88 ans. Un formidable observateur des mutations de notre société qui n'hésitait pas à se remettre en cause comme lorsqu'il s'interrogeait sur la robotisation de notre société sur Europe 1.
En tant que philosophe, je me pose le problème du chômage. Et vous savez, avec la productivité croissante, avec l'entrée du numérique, avec l'entrée de l'informatique, etc., l'informatique va détruire beaucoup plus d'emplois qu'elle n'a en créé, bien entendu. Et à un certain moment, si on a une ère robotique vraiment très avancée, il est possible que nous nous orientions à un moment vers une société, allez, je vais le dire, sans travail, où le chômage ne sera pas conjoncturel, mais structurel. Et là, alors il faut rêver une société complètement nouvelle. Et c'est ça le travail des philosophes. Et les philosophes ne l'ont pas fait. Michel, et c'est leur faute.
Michel Serres qui était l'invité de Lionel Gougelot sur Europe 1 en janvier 2018. Michel Serres qui avait été élu à l'Académie française en 1990. Hommage ce soir d'un autre académicien qui se souvient avec émotion de lui, l'académicien Jean-Marie Roire.
C'était un homme très beau. Il avait également une voix très particulière. Une voix de Gascon, une voix de Midi, une voix un peu haillée. Et bien sûr, cette voix exprimait une très grande intelligence. C'était un homme qui avait non seulement une intelligence philosophique très grande, mais qui l'appliquait dans le réel. Et vraiment, à chaque fois, toutes ses interventions, je dis, était marqué par cette expérience très riche au contact du concret, ce qui n'est pas le cas de tous les philosophes. Ce n'est pas du tout le philosophe dans les nuages, c'était quelqu'un qui était capable d'appliquer cette culture et cette intelligence à la vie très concrète. C'est pourquoi ça a été un formidable vulgarisateur.
Jean-Marie Roire avec Marguerite Lefebvre. Et puis, grosse frayeur à Venise, aujourd'hui, avec un imposant paquebot de croisière. Imaginez qu'il peut accueillir 2700 passagers, qui a raté son accostage en heurtant un quai et un bateau touristique ce matin. Le bâtiment a raclé le quai tout du long, mais heureusement, plus de peur que de mal, avec 4 blessés légers.
Enfin, vous nous écoutez peut-être en voiture. Un mot de vos conditions de circulation.
Et Bison Futé qui voit rouge pour les retours de ce week-end, de l'ascension sous le soleil, difficulté en ce moment au niveau de Rouen, Chartres et surtout Orléans, à partir de Main-sur-Loire sur l'A71, sur l'A11. Vous mettez actuellement 1h30 entre Angers et Le Mans. En Ile-de-France, trafic très important aussi. On compte à cette heure-ci déjà 170 km de bouchons. Beaucoup de monde depuis Saint-Arnoult jusqu'aux portes de Paris. Et une autre difficulté en région, la 10 entre Bordeaux et Poitiers.
C'était le journal de Fabienne Lemoal. Merci beaucoup Fabienne.
Belle fin de journée sur la route ou ailleurs. Vous écoutez Europe 1, il est 18h11.
La météo, c'est avec vous Valérie Darmon. Les températures baissent dès demain sous l'effet des nuages.
Absolument Philippe, le temps vire au gris clair, effectivement, à cause d'un conflit de masse d'air entre l'Est et l'Ouest. Alors résultat, de faibles pluies qui vont se produire demain matin du nord de l'Aquitaine à la Bourgogne et quelques averses sur le massif central. C'est plus variable avec toujours de très belles éclaircies l'après-midi ailleurs et sur le sud de la France. Un voile de nuages recouvre le ciel, mais ce dernier reste tout de même très lumineux. Les orages éclatent juste sur les reliefs des Alpes du Nord et du massif central. Les minimales, elles sont comprises entre 9 et 14 degrés sur le nord-ouest, 13 à 17 sur le reste du pays. Elles sont très douces. En revanche, les températures de l'après-midi sont en baisse, avec 17 à 22 de la pointe bretonne aux Ardennes, 23 à 28 ailleurs, jusqu'à 32 en vallée du Rhône et sur la plaine d'Alsace. On va mieux respirer.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Le journal des sports, c'est donc avec vous Simon Rubin, rebonsoir.
Rebonsoir.
Et on commence avec du foot, ce soir c'est l'épilogue de la saison française.
Match retour des barrages avec en jeu la dernière place disponible pour jouer la Ligue 1 la saison prochaine. Dijon reçoit Lens au match aller un partout, suspense donc. Kevin Tuillier, vous êtes notre correspondant dans le Nord et dans toute la région, on se prépare à l'événement.
Oui, les supporters ont bien conscience ici d'être à quelques heures d'un match qui peut s'avérer historique pour le RC Lens. Depuis le début des playoffs, les fans sont présents. Ils étaient plus de 37 000 jeudi au stade Bollaert. Ils ne seront que 600 à faire le déplacement aujourd'hui car Dijon a limité l'invasion sans Hermes. Les Lensois sont attendus nombreux sur le parking de Bollaert où un écran géant de 60 mètres carrés est installé. Plus de 20 000 personnes devraient y regarder le match. Les villes de Béthune, Mazingarbe, Barras et même à Essar, commune d'à peine 1700 habitants, ont elles aussi mis en place des écran géant pour les supporters de la région. Tout est prêt en tout cas pour un soir de fête avec des Lensois qui rêvent de célébrer un retour en Ligue 1 et qu'ils attendent depuis 4 ans maintenant.
Kevin Tuillier, et vous l'évoquiez Kevin, pour la petite histoire, sachez que le club de Dijon a donné ou bradé beaucoup de places pour que les supporters locaux viennent en masse et empêchent ainsi l'armada lensoise de truster les tribunes. C'est un peu roublard, mais efficace.
Toujours en foot, on attend les filles vendredi, mais d'abord, les garçons de l'équipe de France jouent ce soir.
Contre la Bolivie à Nantes, match amical. Ceci dit, les vacances, c'est pas pour tout de suite pour l'équipe de France. Et c'est d'ailleurs le rappel à l'ordre lancé par Raphaël Varane, le capitaine ce soir.
On n'est pas là pour préparer les vacances, mais on est là vraiment pour être performant. Et les matchs de préparation, c'est bien pour retrouver le rythme. Mais c'est bien d'avoir ce match-là avant les deux matchs de qualif.
Raphaël Varane, ce soir France-Bolivie à suivre sur Europe 1 avec Cyril de la Morinerie. Quant au bleu de Corinne Diacre, celle qui prépare le Mondial, une mauvaise nouvelle. Griège Mbok, titulaire en défense, manquera le match d'ouverture vendredi. Elle est blessée au genou. Et puis Amandine Henry, la capitaine, elle est toujours incertaine. Elle a le dos bloqué.
Un mot de cyclisme avec la fin du Tour d'Italie et du rugby avec le top 14.
Le top 14, un Brive qui est de retour parmi l'élite après sa victoire en barrage contre Grenoble cet après-midi, 28-22. Et puis en cyclisme, le Tour d'Italie remporté par le Colombien Carapaz à l'issue de l'ultime contre-la-montre. Pas de miracle pour l'Italien Nibali à domicile qui termine deuxième.
Et on va passer au tennis, direction Roland-Garros.
Roland Garros 2019.
Jeux, set et match.
L'événement tennis est sur Europe 1.
Les huitièmes de finale aujourd'hui, avec d'ores et déjà la qualification de Federer. 54e quart de finale en Grand Chelem pour lui. Chez les dames, Konta, Martic et Vondroušová passent également. Et en ce moment, Christophe Lamar, c'est un choc entre le grec Tsitsipas et un autre Suisse, Wawrinka.
Et un choc qui tient absolument toutes ses promesses. On l'avait dit, on l'avait surtout espéré, ce duel entre Stefanos Tsitsipas, le grec, et le Suisse Stan Wawrinka allait-il nous donner un grand match ? La réponse est oui, c'est un très très grand match, un bel affrontement. 4 heures que les deux joueurs sont sur le court, Suzanne Lenglen sous une chaleur accablante, 2-7 partout. Nous venons d'entamer le 5e et dernier set. 1-0 pour Wawrinka. Tsitsipas qui est au service pour égaliser dans cette dernière manche. Un duel de cogneurs, mais un duel d'essai aussi. Si vous aimez les revers à une main, bah vous allez vous régaler, parce que franchement, je peux vous dire que ce sont les deux plus beaux revers du circuit qui sont en train de s'affronter. Et pour l'instant, eh bien, le sort n'a pas encore décidé du vainqueur. Signalons à l'instant la qualification de Rafael Nadal il y a quelques minutes. Assez facile, l'Espagnol, 6-2, 6-3, 6-3, et 2h13 face à l'Argentin Londero. Signalons que le vainqueur de ce match entre Stan Wawrinka et Stefanos Tsitsipas affrontera en quart de finale Roger Federer. Le vainqueur, évidemment, Rafael Nadal, lui, connaîtra son vainqueur un peu plus tard, puisque Benoît Paire et Kei Nishikori reviendront sur le court. Suzanne Lenglen après Tsitsipas, Wawrinka.
Christophe Lamar en direct de Roland-Garros.
Et c'est Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Et c'était le journal des sports avec vous, Simon Rubin. Tout à l'heure.
Tout à l'heure.
Europe 1.
Comme disait le président Chirac, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Et l'industrie française a pu en faire l'expérience ces derniers jours. General Electric, Whirlpool, Ascoval, des milliers d'emplois menacés quand ils ne sont pas supprimés et un gouvernement sous pression. L'État ne peut pas tout, comme disait cette fois Lionel Jospin. Mais que peut-il faire ? Réponse avec la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, Agnès Pannier-Runacher. Elle sera avec nous dans un instant.
Jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1. Philippe Vandel, il est 18h18, on va parler politique.
General Electric, Whirlpool, Ascoval, c'est une série noire annoncée sur le plan industriel. Le plus symptomatique, General Electric, le géant américain qui avait racheté Alstom en 2015 en promettant la création de 1000 emplois, a annoncé mardi son intention de licencier 1044 collaborateurs, dont 792 dans l'activité gaz du site de Belfort. Bonsoir Agnès Pannier-Runacher.
Bonsoir Philippe Vandel.
Merci d'être parmi nous. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie dans le JDD aujourd'hui. Hugues Bellet, le tout récent DG de General Electric France, affirme que, je cite, « Belfort ne fermera pas ». Pardon de cette question, est-ce que vous le croyez ?
Bien sûr, je le crois, puisque vous avez 4000 employés à Belfort et que là, on parle d'un plan social qui concerne 1000 personnes. 1000 personnes à ce stade, et ça, c'est le début de la négociation et nous comptons bien améliorer le suivi de la négociation.
Alors, General Electric n'a pas créé les 1000 emplois promis et a préféré payer la pénalité prévue en cas de non-respect de cette obligation. Est-ce que ce n'est pas un peu cynique ?
Je ne crois pas, parce qu'en réalité, General Electric a créé des emplois jusqu'à mi-2017. Il était à mi-chemin de son objectif, il était à plus de 500 emplois. Et ce qui s'est passé derrière, c'est que ses marchés se sont effondrés. Et je reconnais qu'on est obligé de tenir compte des conditions économiques dans lesquelles ils évoluent. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les 50 millions dont on dispose et qu'ils ont payé vont permettre d'accompagner notamment le site de Belfort, mais d'autres sites sur des projets de réindustrialisation. Et des projets d'industrialisation qui ne concernent pas nécessairement GE, mais qui peuvent concerner d'autres entreprises. Et c'est ça qui est important pour nous.
GE, c'est General Electric prononcé à l'anglaise, à l'américaine. Autrement dit, l'État se substitue au privé. Tout en est dans le privé. Est-ce que
l'État utilise l'argent du privé pour réindustrialiser. C'est plutôt ça la technique qui est utilisée. Pour le moment, ce n'est pas de l'argent public. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, puisque General Electric n'a pas fait le travail, eh bien, on lui demande de faire en sorte de nous donner l'argent pour que d'autres fassent ce travail d'industrialisation et d'augmentation de l'emploi industriel.
Et donc de faire baisser ce chiffre annoncé 2044.
Alors ça, c'est un autre dossier. C'est important de faire bien la différence entre les deux.
Expliquez.
Ça ne concerne pas Alstom. En fait, historiquement, c'est une division qu'avait General Electric depuis 1999 et qui est concernée effectivement par une division par deux de son activité. Parce qu'aujourd'hui, les turbines pour centrales à gaz, ça ne marche plus. Alors, ça reprendra peut-être. Et moi, ce qui me paraît très important sur ça, c'est ce que dit Hugues Bellet. Il s'engage, c'est très bien, on le prendra au mot. Il s'engage à maintenir l'outil industriel, les savoir-faire et l'emploi. Splendide. Nous, on sera derrière lui et on s'assurera que ces trois belles propositions soient mises en œuvre concrètement dans les mois qui viennent.
Votre ministre de tutelle, Bruno Le Maire, a prévu de se rendre demain à Belfort, c'est bien ça ?
Exactement.
Quelles annonces allez-vous faire ?
C'est moins des annonces qu'être aux côtés des organisations syndicales, des salariés et des élus locaux et de montrer qu'on ne se laissera pas faire et qu'on ne se laissera pas embobiner par de belles paroles, mais qu'on sera emploi par emploi à demander des explications et des développements industriels.
Ah bah tiens, justement, parce que vous parlez de belles paroles, Emmanuel Macron, le président, a déclaré que les engagements pris par General Electric doivent être tenus. Mais quels engagements? Si on paye une amende en cas de non-création d'emploi, est-ce que c'est un engagement tenu? Quelle différence faites-vous entre un engagement et une promesse?
Alors, en l'occurrence, c'est le texte qu'a signé General Electric. C'est-à-dire que si on regarde ce à quoi il s'était engagé, 1 milliard d'euros d'investissement par an, ils l'ont fait. Effectivement, l'investissement dans la recherche et développement et l'augmentation de ça, ils l'ont fait. Le fait d'implanter des centres de décision en France aujourd'hui, 4 sur 5 des centres de décision sur les énergies renouvelables sont implantés en France. Et entre nous, je préfère que ce soit sur les énergies renouvelables que sur les énergies fossiles. Ça me paraît un peu plus porteur comme sujet. Donc ça, ils l'ont fait. Et le dernier point, c'est soit on recrute 1000 emplois, soit si on n'est pas capable de le faire parce que la conjoncture n'est pas là, et c'est rédigé comme ça dans le pacte, alors on paiera 50 000 euros par emploi. Moi, je suis hyper déçue de ne pas avoir ces 1000 emplois, mais en l'occurrence, si on se tient à la lettre de l'engagement, ils l'ont tenu.
Autre sujet qui a créé une polémique, General Electric a attendu mardi pour annoncer ses 1044 licenciements, soit après les élections européennes. Alors vous allez me répondre que vous n'étiez pas au courant, que c'est un hasard, mais moi je me souviens qu'en 2012, on avait reproché à Nicolas Sarkozy, candidat à ses réélections, de faire pression sur les grandes entreprises comme Areva ou Peugeot et d'autres, de repousser leurs annonces de plans sociaux après la date des élections. Que répondez-vous à ce reproche?
Ce que je vous réponds, c'est que toutes les semaines, on a des dossiers industriels. On a eu Ascoval 3 jours avant les élections, et qui n'est d'ailleurs pas un sujet de faillite d'Ascoval. Je le redis parce qu'il y a eu une confusion terrible dans cette annonce. Aujourd'hui, Ascoval a toujours un repreneur, il a toujours un actionnaire. C'est une filiale sœur d'Ascoval qui est en difficulté.
C'est British Steel qui a repris Ascoval, voilà. Qui elle-même est en faillite.
Non, ce n'est pas British Steel qui a repris Ascoval, c'est Olympus Steel. C'est hyper compliqué, on est d'accord. Olympus Steel qui avait acheté British Steel il y a 3 ans, qui a repris Ascoval parce qu'il avait des problèmes avec British Steel, justement. Et c'est British Steel qui l'a racheté, qui est en difficulté. C'est ça le sujet. Donc, des nouvelles, Fonderie du Poitou, les Arc Industries, c'était des bonnes nouvelles. On les a eues quelques jours ou quelques semaines avant la campagne. Des mauvaises nouvelles, Arjo-Wiggins ou Ascoval, enfin cette confusion autour de British Steel, on les a eues aussi quelques jours avant la campagne. Et je peux vous assurer que dans les semaines qui viennent, on aura des bonnes et des mauvaises nouvelles dans l'industrie. Ça s'appelle la vie des affaires.
On est en France et qu'on n'est pas avare ici de polémique. Autre polémique, Hugues Bellay, le récent DG de General Electric France, n'est pas un inconnu de l'exécutif. Il a travaillé dans les cabinets ministériels d'Arnaud Montebourg, puis d'Emmanuel Macron. Et on dit, tiens, est-ce qu'il y a une collusion? Est-ce qu'il leur a parlé? Est-ce qu'il leur a passé un petit message au président en disant, attention, je vais garder l'info jusqu'à mardi?
Alors, soyons très
clairs. Vous l'avez lu comme moi.
Soyons très clairs. Moi, depuis le mois d'avril, je suis interrogée par la représentation nationale, les élus locaux et les organisations syndicales. Et sincèrement, il faut vraiment avoir habité sur Mars ces dernières semaines pour penser qu'il n'allait rien se passer sur le site de Belfort. Ce que nous, on attendait, c'est la décision de GE, de General Electric, une décision qui soit claire et sur laquelle on puisse démarrer une négociation. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il n'y a, je dirais, pas de surprise sur le fait que le site allait être réajusté, ça c'est clair. Le sujet, c'est l'ampleur et c'est comment maintenant on commence à négocier pour que le chiffre soit plus petit, pour que les gens soient accompagnés et pour que General Electric trouve d'autres postes et développe de nouvelles activités pour faire en sorte de minimiser l'impact sur Belfort. Il n'y a que ça qui nous intéresse.
Alors vous en avez parlé un petit peu, cette annonce intervient après d'autres déconvenues, liquidation l'usine Whirlpool, il y a Arjo-Wiggins, il y a la fermeture annoncée de Ford Blanquefort et Ascoval, vous en avez parlé. Ça commence à faire beaucoup ou est-ce que c'est un effet de loupe trouvé par les journalistes quand on rassemble tout ça et tous les sujets?
Vous ne parlez pas par exemple d'Arc. Arc, c'est 5000 emplois par exemple. Donc tout d'un coup, si vous voulez, ça rééquilibre la balance. Je ne dis pas que quand vous êtes concerné par l'emploi qui est perdu, vous trouvez cet rééquilibrage intéressant pour vous. Mais en tout état de cause, il faut regarder l'ensemble de l'industrie aujourd'hui. Et ça, c'est nouveau. 2017, 2018, 2019, l'industrie crée de l'emploi. Ce n'est pas le gouvernement qui le dit. Ce sont les économistes, c'est l'INSEE, c'est l'OCDE. Et ça, c'est tout nouveau en France.
Et j'ajoute que c'est la première fois depuis 15 ans.
Exactement.
Plus prometteur, où en est le projet de fusion Renault et Fiat Chrysler? Vous encouragez ce rapprochement?
Alors, on a une attitude à la fois d'actionnaire et de, je dirais, défenseur des intérêts de l'État et de l'État français, au sens industrie française. Donc, à ce stade, les négociations vont bon train, les discussions aussi. Et dans la matrice du projet est intéressante, mais en tout état de cause, le diable est dans les détails et on sera très attentif sur l'emploi, sur l'empreinte industrielle et sur ce que veut dire concrètement ce projet pour l'industrie française et pour l'automobile.
Alors, je vais parler du diable ici, fait inédit depuis la Libération. Si le projet de fusion voit le jour, l'État français ne serait plus le principal actionnaire de Renault et surtout, l'État perdrait son droit de double vote. Qu'est-ce que ça change pour vous, si tant est que ça change quelque chose ?
L'important, c'est la nature des droits de gouvernance dont on bénéficiera et c'est tout l'enjeu des discussions qui sont en cours.
Donc, c'est pas certain.
Comme toujours, ces projets ne sont pas ficelés en une semaine et quand on regarde l'ampleur de ce projet, fort heureusement.
Alors, je veux dire, le délégué syndical CGT de Renault s'est indigné. Il a dit que le gouvernement puisse valider ce type de montage, c'est proprement scandaleux. Et voici son argument. L'État français perdrait, selon lui, en cas de cette fusion, perdrait sa minorité de blocage, il n'aurait plus de représentants dans le nouveau conseil d'administration. Et là, j'en viens au sujet qui vous préoccupe, Madame la Ministre. Rien n'empêchera alors l'actionnaire italien de privilégier sa base nationale. Que répondez-vous à la CGT Renault ?
Je réponds que si le dossier était ficelé, il aurait fait l'objet d'une annonce, parce que c'est obligatoire dans le cadre d'une société cotée. Donc, en tout état de cause, attendons que les annonces soient faites. Et puis, je répondrai une deuxième chose, c'est que l'actionnaire italien, c'est avant tout un actionnaire patrimonial. Donc ce qui l'intéressera, c'est des questions d'argent. Je ne suis pas certaine que ce soit son intérêt de privilégier la base italienne versus la base française. Nous, notre intérêt, c'est l'industrie française. Donc, on n'a pas le même point de vue. Et en tout état de cause, on défendra notre point de vue dans cette fusion.
Merci beaucoup, Agnès Pannier-Runacher. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie. Merci d'avoir été avec nous un dimanche de l'Ascension en direct sur Europe 1.
Merci. Europe 1.
À suivre, quand un scrutin en chasse un autre une semaine après les élections européennes et son chambardement politique, les regards se tournent déjà vers les municipales qui auront lieu l'an prochain à Paris. Les Verts qui ont fait une percée ont désigné hier leur candidat pour cette mairie ô combien stratégique. Il s'appelle David Béliard et c'est sa première interview après son élection. Il sera avec nous dans un instant sur Europe 1.
Vous écoutez Philippe Bondel, 2 heures pour faire le tour de l'actu. C'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1.
18h28, c'est l'heure du rappel des titres avec Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. 9 Français condamnés à mort en Irak en une semaine pour appartenance au groupe État islamique. Sur Europe 1, la porte-parole du gouvernement affirme que la France tente d'intervenir mais estime que la justice irakienne se fait dans de bonnes conditions. Autre annonce de Sibeth Ndiaye, le gouvernement va bientôt revoir le mode de calcul des tarifs de l'électricité et ce dans le cadre de l'examen du projet de loi énergie ce mois-ci. Ils ont défilé ce matin à Paris au cri de stop aux mutilations. Les gilets jaunes blessés lors des manifestations ont dénoncé les violences policières. Bruno Le Maire à Belfort demain. Le ministre de l'économie va rencontrer les représentants des salariés de General Electric et les élus locaux. Une visite une semaine après l'annonce d'un vaste plan social par le groupe américain. La présidentielle en Algérie qui devait se dérouler le 4 juillet est annulée. Décision du Conseil constitutionnel algérien. Il rejette les 2 seules candidatures et préconise le prolongement du mandat du président par intérim. Le tennis.
Europe 1 en direct de Roland-Garros.
Christophe Lamarre s'est serré entre Tsitsipas et Wawrinka.
Effectivement, c'est un match qui tient véritablement toutes ses promesses. On n'est pas très loin de vraiment d'atteindre les sommets. 2 manches partout. 4h15 que les 2 joueurs sont sur le court. Imaginez par une telle chaleur ce que les corps peuvent endurer. Alors que Stefanos Tsitsipas a eu plusieurs fois, a eu 3 fois l'occasion de prendre le service au cours de cette dernière manche de Stan Wawrinka. Mais le Suisse en a appelé à sa propre expérience. Il n'a pas lâché. Et pour l'instant, 2 jeux partout dans cette 5e et dernière manche d'un match qui ne veut pas se terminer. Pour le plus grand bonheur, évidemment, des 10 000 spectateurs du Suzanne Lenglet. Et pendant ce temps, dans les entrailles, évidemment, dans les sous-sols, dans les couloirs, il y a 2 joueurs qui attendent. C'est Kei Nishikori et Benoît Paire qui attendent la fin de ce match pour pouvoir entamer leur duel. Signalons la qualification il y a quelques instants de Rafael Nadal en 3-7, beaucoup plus facilement pour l'Espagnol d'ailleurs.
Merci Christophe Lamarre à Roland-Garros pour Europe 1, radio officielle du tournoi.
Merci beaucoup Sophie, à tout à l'heure pour votre journal complet à 19h.
Et bonne fin de week-end à tous. Sur Europe 1, il est 6h30 passées.
La météo, c'est maintenant avec vous Valérie Darmon. Le ciel de nos régions sera plus contrasté demain.
Tout à fait, de la Vendée, de la Bretagne aux Hauts-de-France, le ciel sera variable et sec. Des Charentes au bassin parisien jusque sur la Lorraine, quelques averses vont se multiplier dans un ciel donc par moments assez bien nuageux. Des plaines du sud-ouest aux Pyrénées en remontant vers les Vosges et le Jura en passant par le Massif central, vous connaîtrez quelques ondées. Et le temps sera globalement beau tout de même. De Rhône-Alpes à la plaine d'Alsace, le temps est très chaud jusqu'en milieu d'après-midi. L'ambiance très lourde, ce qui fait que quelques orages vont éclater. Et près de la Méditerranée, c'est toujours l'été. Les températures sont en baisse dans ce contexte, entre 18 à Brest pour les maximales et 31 à Grenoble, Strasbourg et Lyon. 23 annoncés à Paris, à Nice et à Rennes, on est loin des valeurs d'aujourd'hui. 26 à Marseille, Angoulême et Bourges et 28 degrés à Brive-la-Gaillarde, Dijon et Besançon.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, on va continuer à parler politique, Philippe Vandel.
Les élections européennes sont à peine digérées, qu'on passe aux municipales. Hier, le parti Europe Écologie Les Verts a élu sa tête de liste pour les municipales à Paris en 2020. Le vainqueur, donc le futur candidat, est le chef de file du groupe des Verts au Conseil de Paris, David Béliard, que je suis ravi d'accueillir à ce micro en direct pour sa première interview. Bonsoir David Béliard.
Bonsoir.
Votre première interview, non pas la première, mais après ce vote. Merci d'avoir choisi Europe 1. Alors il y avait plusieurs candidats en lice contre vous, notamment Julien Bayou, porte-parole de votre parti. Cela ne s'est donc pas joué sur vos brevets d'écologie aux uns et aux autres. Question, qu'est-ce qui vous a fait triompher? Qu'aviez-vous que les autres n'avaient pas?
Julien Bayou, déjà, c'est quelqu'un que je connais très bien, pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'estime, et on est très complémentaires. D'ailleurs, on va faire la campagne ensemble, hein, on va la faire rassembler. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir surtout de ce week-end. Après, effectivement, moi, j'avais peut-être le petit plus, c'était d'avoir une expérience dans l'institution. Et je pense que c'est important, lorsqu'on se présente pour les municipales, pour une grande ville comme Paris, eh bien, de bien connaître la machine. C'est Paris, c'est plus de 50 000 fonctionnaires, c'est 8 milliards d'euros. Eh bien, il faut avoir une expérience pour pouvoir dire que ce que nous allons proposer et ce qu'on va continuer et ce qu'on va proposer pendant cette campagne municipale, eh bien, on est capable de le faire.
Alors, puisque vous parlez d'expérience, l'enchaînement va être baroque. Parce que dans les portraits de vous, David Béliard, vous tenez à vous définir comme, je cite, « prolo et fils de prolo », c'est-à-dire ?
Alors, je suis fils de prolo, je ne suis plus prolo.
Ah, j'allais vous demander, quel métier faisiez-vous avant de faire de la politique ?
Non, je suis fils de prolo.
Ouais.
Je suis fils de prolo parce que mes parents, et c'est ce que j'explique dans le portrait auquel vous faites référence, sont des ouvriers. Ma mère était aide-soignante et avant ça, femme de ménage. Et puis, moi, j'ai un parcours qui est un parcours que beaucoup de Parisiennes et de Parisiens ont, c'est-à-dire un parcours de provincial, un parcours de quelqu'un qui n'avait pas les codes, de quelqu'un qui vient d'une famille qui était une famille modeste et qui est venue à Paris. Et Paris m'a offert, d'une certaine manière, le rêve parisien. Et ce rêve parisien, eh bien, c'est une multiplicité d'opportunités. Eh bien, ces opportunités, c'est aussi d'être là en face de vous pour répondre à un certain nombre de questions et de faire de la politique pour changer les choses. Eh bien, c'est ça, c'est ce rêve parisien qu'aujourd'hui, je crois qui s'est grippé, hein, du fait notamment l'explosion des loyers, d'une ville qui est de plus en plus chère, d'une ville qui est de plus en plus difficile, eh bien ce rêve parisien que moi j'ai connu quand j'avais 20 ans, eh bien je souhaiterais que celles et ceux qui ont 20 ans aujourd'hui puissent le connaître aujourd'hui.
Vous avez quand même un petit peu les codes. Ce que vous dites, je cite, « En affinité avec la sociologie parisienne », c'est une jolie phrase de Parisien en français courant, l'affinité avec la sociologie parisienne, ça veut dire quoi ?
Eh bien c'est ça, c'est qu'en fait il y a un certain nombre de personnes qui ont le même parcours que moi. Vous savez, trois quarts des Parisiennes et des Parisiens ne sont pas nés à Paris.
Et c'est mon cas.
Voilà, on est deux. Eh bien c'est ça, l'affinité avec la sociologie parisienne. Et je pense que c'est une grande fierté aussi. C'est une des grandes capacités de cette ville de pouvoir accueillir un certain nombre de gens, de pouvoir leur proposer eh bien, des opportunités qu'ils ne pourraient pas forcément avoir ailleurs. Et c'est pour ça que moi j'aime cette ville, c'est pour ça que j'ai envie aujourd'hui eh bien, qu'elle se transforme et qu'elle réponde aux grands enjeux qui sont des enjeux environnementaux, aux grands enjeux de justice sociale, aux grands enjeux démocratiques. Eh bien, c'est pour ça aussi que je fais de la politique.
Attention si vous êtes trop nostalgique, parce que j'ai appris que vous veniez d'un tout petit village très rural de Haute-Saône, c'est ça ?
C'est ça,
120 habitants, donc si vous voulez retrouver vos conditions de vie de votre enfance, vous n'allez jamais y arriver ici.
Ah, c'est pas ce que je dis. Ce que je veux, c'est retrouver le Paris qui m'a donner en fait l'opportunité.
J'ai bien compris, mais vous savez que c'est le reproche, je me fais l'avocat, des opposants aux écologistes, c'est celui-ci. En disant qu'est-ce qu'ils y connaissent, ils viennent de la campagne et qu'est-ce qu'ils viennent nous en ville.
Nous, moi, ça fait 20 ans que je suis à Paris, donc je connais quand même bien cette ville. Et c'est une ville pour laquelle j'ai énormément d'affection. Et puis, vous savez, c'est une ville que j'ai vue évoluer. D'abord, évoluer de manière un peu négative, hein, quand même, parce que les loyers sont aujourd'hui excessifs. On est à dépasser les 10 000 euros le mètre carré. Et puis, c'est une ville aussi, aujourd'hui, qui doit s'adapter à de nouvelles conditions, des conditions quotidiennes. Aujourd'hui, il fait très, très chaud. Ces épisodes de canicule, ces épisodes de forte température, elles vont se multiplier. Eh bien, il faut répondre à ça. La question, c'est est-ce qu'on va pouvoir vivre correctement à Paris, par exemple, juste cet été? Et pour ça, eh bien, il faut, par exemple, des espaces verts. Il en faut plus. Aujourd'hui, on en manque. Eh bien, ça, c'est une proposition que nous défendons, que nous avons défendue depuis 2014 et que nous allons continuer à défendre pendant les municipales de 2020.
Alors, en mode politique, vous avez annoncé vouloir prendre la tête d'une coalition écologiste et de gauche aux municipales. Et ça va à l'encontre de la stratégie du patron de votre parti, Yannick Jadot, qui a refusé les alliances avec les socialistes et avec d'autres. Et si vous l'avez très bien réussi, votre parti a fait 19,9% aux européennes ici sur Paris.
Vous savez, c'est une élection à deux tours. Et même à trois, mais disons à deux tours. Au premier tour, nous voulons rassembler l'ensemble des personnes qui font l'écologie à Paris. Donc aujourd'hui, nous sommes rassemblés au sein d'Europe Écologie Les Verts, au sein de mon mouvement, et nous allons tendre la main. Nous allons tendre la main à toutes celles et ceux...
À qui
aux citoyennes et aux citoyens d'abord.
Oui, mais c'est la langue de bois, évidemment, c'est toutes celles et ceux.
Non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, c'est pas de la langue de bois, vous savez, j'étais...
Non, mais il n'y a jamais personne qui a refusé la voix de quiconque en démocratie depuis que ça existe.
Non, mais la question, c'est de faire avec. C'est-à-dire que notre programme, aujourd'hui, on a une proposition de programme, eh bien, il faut y contribuer, il faut l'enrichir. Et moi, toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont à Paris et qui ont envie de contribuer à cette dynamique-là, eh bien, ils peuvent nous rejoindre. Nous avons les portes grandes ouvertes et nous allons discuter aussi avec les syndicats et nous allons discuter avec toutes celles et tous ceux qui veulent faire un grand projet écolo pour Paris. Et puis ensuite, vous avez un deuxième tour. Et moi, ce que je souhaite, c'est que nous soyons en tête et que nous soyons en capacité de créer une coalition où l'écologie, où nous serons centrales. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans une écologie qui est une coalition. Nous sommes membres de la majorité et c'est une coalition qui est de gauche et écologiste. Ouais. Eh bien, il faut transformer la donne. Il faut que demain, ça soit d'autres qui viennent à nous et qu'on fasse une coalition où l'écologie sera centrale.
Alors, vos adversaires disent que les Verts ont déjà le pouvoir à Paris puisqu'Anne Hidalgo ne détient pas la majorité sans vos voix au conseil municipal, d'où par exemple le plan de circulation de Paris avec ses couloirs de bus en dur, les sens uniques, la fermeture des voies sur berge. Ça, c'est la marque des écolos.
La reconquête des voies sur berge. Parce que la fermeture des voies sur berge aux voitures, elle s'est traduite aussi par l'ouverture des voies sur berge à des milliers et des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui l'utilisent tous les week-ends.
Alors, je vais parler
de choses très positives.
Je vais parler de programme. On va rester au chapitre de la circulation. Les candidats ne manquent pas à Paris, surtout à gauche, pour la mairie de Paris. C'est un concours l'épine à celui qui sera le plus écolo. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous les croyez sincères?
Les écologistes, il y a ceux qui en parlent et puis il y a ceux qui le font. Et nous, depuis plus de 40 ans, eh bien, on a des programmes, on a des propositions qu'on a mis en œuvre, en partie, bien sûr, puisque nous sommes minoritaires aujourd'hui dans cette majorité. Mais vous parliez, par exemple, de la piétonnisation des berges de Seine. Ça, c'est une proposition des écologistes depuis 1989. Mmh. Le plan vélo, ce sont les écologistes. La question du Vélib, ce sont les écologistes. Bref, les grandes réalisations qui sont faites depuis 2001 sous Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo sont des propositions qui ont été portées par les écologistes. Donc vous voyez, nous, on a pour nous la cohérence. Et cette cohérence, elle est extrêmement importante. Moi, j'entends qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'écologie, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui le font.
Dans un mois tout juste, les véhicules diesel de plus de 18 ans ne pourront plus circuler dans les communes du Grand Paris. Est-ce que c'est une bonne mesure selon vous ?
Oui, c'est une bonne mesure parce qu'il faut... aujourd'hui, on a un enjeu sanitaire qui est l'enjeu de la qualité de l'air et de la pollution. Il y a des gens qui meurent sur la pollution de l'air. Rien qu'à Paris, c'est 2500 décès prématurés par an. Donc, c'est une question sanitaire et c'est une urgence sanitaire sur laquelle il faut agir. Mais bien sûr, ça doit s'accompagner et c'est ce que nous avons proposé dans le cadre de la métropole avec des mesures d'accompagnement et notamment d'accompagnement pour utiliser par exemple sa voiture, favoriser le covoiturage, favoriser les transports publics. Donc il faut de l'argent pour permettre à celles et ceux qui doivent aujourd'hui utiliser leur voiture d'avoir des alternatives.
Ah ben justement, il y a beaucoup de maires qui refusent de signer l'arrêté car ils estiment que cela pénalise leurs habitants qui n'ont pas les moyens. Je voudrais vous faire entendre le maire communiste de Seine-Saint-Denis, il s'appelle Laurent Russier, il a fait les comptes.
Dans l'état actuel des choses, j'ai 7000 véhicules, donc 7000 propriétaires à qui je devrais expliquer demain, désolé, vous ne pouvez plus rouler à Saint-Denis, votre véhicule est trop polluant. C'est souvent les plus modestes, ils n'ont jamais eu les moyens de changer de véhicule.
Réponse 1.
L'écologie, c'est toujours de la justice sociale, toujours. Lorsqu'on prend une mesure qui est d'ordre de santé publique, comme celle-là, évidemment, il faut des alternatives, il faut des mesures qui sont des mesures d'accompagnement. Et souvent, on oublie de faire ces mesures d'accompagnement. On l'a vu au niveau du gouvernement, on l'a vu au niveau...
Mais accompagner comment ? On va payer une voiture à tous ces gens-là ? Ce maire de Saint-Denis va payer sa voiture.
Parce que vous pensez que la voiture individuelle, c'est encore l'alpha et l'oméga pour se déplacer. Eh bien, non, il y a plein d'autres façons de se déplacer. Les transports en commun.
Mais vous imaginez, parmi les 7000, pardonnez-moi,
excusez-moi, je suis désolé, mais...
Oui, mais il y a des gens qui sont plombiers. Ils vont pas aller tout leur matos de plomberie en covoiturage et dans le RER.
En fait, vous avez des gens qui doivent utiliser leur voiture. On le sait. Mais nous, on ne dit pas qu'il faut zéro voiture. Les gens qui doivent utiliser leur voiture, par exemple, vous parlez des plombiers ou des médecins, par exemple, eh bien, il faut qu'ils puissent continuer à utiliser leur voiture. Mais tous les autres, à qui on peut faire des propositions de covoiturage, de transport en commun, eh bien, ils doivent avoir des propositions de qualité.
Merci beaucoup, David Belliard. Je rappelle que vous êtes candidat Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris en 2020. Merci d'avoir choisi Europe 1.
Merci beaucoup.
Dans un instant, une grande voix du foot, on l'aime beaucoup pour son franc-parler, Nathalie Yanetta fait son grand retour à l'occasion de la Coupe du Monde des filles qui commence vendredi.
Il est 18h43, votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec notre page média, Philippe Vandel.
Bonsoir Nathalie Yanetta.
Bonsoir Philippe Vandel.
Faut-il le dire, vous avez été l'une des voix du sport sur Canal+ pendant une vingtaine d'années. Vous parliez du foot, mais pas seulement. Vous avez quitté Canal pour rejoindre François Hollande à l'Élysée sur des dossiers liés au sport. Vous avez fait un détour par l'UEFA que vous avez quitté pour rejoindre l'agence de conseil 2017 où vous êtes toujours directrice associée. Mais là, on est dans la page média du 18-20. L'an passé, vous avez fait un retour à la télévision sur TF1 pour le match de la Coupe du Monde, plus une émission tous les soirs sur LCI. Et la rebelote, c'est la Coupe du Monde féminine qui va se dérouler en France à partir de vendredi du 7 juin au 7 juillet. Pardon pour ma longue introduction. Qu'allez-vous faire? Quel sera le dispositif?
Eh bien, vous avez aimé le dispositif de la Coupe du Monde 2018 des garçons?
Si je dis non, vous allez vous barrer. Donc j'ai beaucoup aimé.
Eh bien, c'est le même. Voilà.
Racontez,
assez
alors.
Simple. On va diffuser les 25 meilleurs matchs de cette Coupe du Monde. Et à chaque match, après ces matchs-là, il y aura donc le MAG sur le même format que nous avions fait l'an dernier. Denis Brognard aux commandes. J'aurai la chance de nouveau d'être dans l'équipe. Et puis, voilà, on aura... des consultantes, des consultants aussi et des invités.
Alors, qui seront-ils? Qui sera-t-elle?
Alors, il y a Ada qui est une des meilleures joueuses du monde, la première Ballon d'Or dont on a beaucoup parlé au moment de la remise du Ballon d'Or, pas pour les bonnes raisons.
Je me souviens très très bien avec cet incident. Elle s'appelle Ada Hegerberg.
Ouais.
Et cet incident, parce que je ne me souviens plus quel DJ lui a demandé si elle savait twerker. Chose qu'on ne demanderait pas.
Je ne balance pas, hein, mais c'était Martin Solveig. Bah, il ne l'a pas demandé à Modric, par exemple, qui était le ballon d'or masculin.
D'accord. Donc il y a des questions qu'on pose encore.
Mais elle a parfaitement bien répondu. Parce que c'est une militante, c'est une personnalité extrêmement forte, Ada. Et surtout, c'est une des meilleures connaisseuses du football joué par les filles mondialement. Elle ne va pas faire cette Coupe du Monde parce qu'elle a tenu tête à sa fédération. Pour des raisons d'équité et de parité.
C'est pas vrai.
Donc elle ne jouera pas cette Coupe du Monde. C'est vraiment une très très grande figure du football des femmes. Il y aura Olivier Echauffny qui entraîne en ce moment le Paris Saint-Germain section féminine et qui a été sélectionneur de l'équipe de France.
Exactement.
Avant Corinne Diacre. Et puis il y aura Louisa Nessib. Alors elle fait partie des anciennes, entre guillemets, des ex-joueuses. Elle était une des vraiment précurseurs. Elle aussi, elle a joué à Lyon et c'est une personnalité... très intéressante, outre sa connaissance évidemment technique du jeu, mais elle aura, elle, ce recul sur l'évolution de ce sport et de la place qu'il a pris en France ces dernières années.
Alors j'ajoute que les matchs seront commentés comme les matchs des garçons par Grégoire Margoton, avec Lisa Razou, avec Camille Abili, la scène fille comme consultante,
ouais.
183 sélections en équipe de France. Il y aura également...
Christian Jean-Pierre avec Sabrina Delannoy sur le deuxième poste commentateur. Ça, c'est un dispositif qui est à la hauteur de l'ambition de TF1, c'est-à-dire de montrer qu'une Coupe du Monde, c'est d'abord une Coupe du Monde. Que le football, c'est d'abord le football. Après, il se trouve qu'il est souvent joué par les garçons, mais il est de plus en plus et de mieux en mieux joué par les filles.
Alors, vous serez donc dans le débat tous les soirs dans le MAG de la Coupe du Monde. Et je veux dire pourquoi je vous en parle, parce que dans une interview à Pure Média, c'était il y a deux semaines, vous avez dit « la télévision a dérivé vers des débats où tout le monde donne son avis ». C'est un petit peu ce que vous allez faire tous les soirs.
Eh bien, je crois qu'on va faire autrement. Et pour une raison simple, et je suis très contente de ça, c'est que je pense que tous les journalistes vont retrouver le cœur de métier. Quand même, normalement, la mission, c'est d'informer. Le niveau de connaissance des téléspectateurs et même des amateurs de football et de nous-mêmes du football joué par les femmes, il n'est pas le même que celui des garçons. Donc, on va vraiment informer les gens. Je pense que au début de l'émission et à la fin de l'émission, ils auront appris des choses.
Match d'ouverture, vendredi 7 juin, ça sera France-Corée. Il y aura France-Norvège le 12 juin, France-Nigéria le 17. Ces trois matchs sont à 21h. TF1 fait le pari de l'audience.
Et je pense qu'ils ont raison. D'abord,
déjà, ils ont intérêt parce qu'ils ont acheté l'exclu 10 à 12 millions d'euros.
Ce qui est beaucoup moins cher qu'une Coupe du Monde de garçons quand
je
même.
Je sais, hein. Mais ça me réjouit de voir ces matchs à 21h.
Ouais, ouais, c'est très important pour l'équipe de France. C'est important, je pense, pour le pays aussi. Il y aura des très belles surprises. Il y aura des gros coups de cœur. Je pense qu'une des plus belles surprises de cette Coupe du Monde pour les Français, ça sera l'ambiance dans les stades.
Vous avez vu beaucoup de matchs de filles, c'est différent l'ambiance ?
Oui, c'est très différent. C'est très convivial, c'est très populaire, c'est très gay, c'est très familial. Je pense qu'il y a cette espèce d'a priori que c'est mieux, les filles. Parce que ça chouine pas toutes les 5 minutes sur le terrain,
ah bon,
parce que ça joue plus vite, parce qu'il y a moins de puissance, moins de violence, qu'il n'y aurait pas de tricherie, que tout ça n'aurait pas été pourri par l'argent. Et donc je pense qu'on y va un peu détendu et du coup l'ambiance s'en ressent.
Très important, Nathalie Yanetta, vous aviez été conseillère du président de la République François Hollande de 2014 à 2016, chargée du sport, et vous avez œuvré pour que cette Coupe du Monde se déroule en France. Quand vous avez déposé le projet, vous aviez pris un sacré risque, vous avez garanti des stades pleins. Alors, ils vont être pleins ?
Ouais, et ça, c'est la plus belle des satisfactions. Franchement, on était sûr qu'on allait gagner. La France est un pays qui sait organiser les grands événements. Mais le défi, c'était de dire à la FIFA, ouais, la France fera déplacer des spectateurs et on vous garantit des stades pleins. On a fait un peu d'huile au début de l'ouverture de la billetterie,
ouais.
Et le pari est gagné.
Et les billets, il n'y en a plus ?
Quasiment plus.
Ils sont à quel prix ?
Alors c'est ça, c'est qu'on a fait une politique en tordant le bras à la FIFA, hein, parce qu'ils n'aiment pas ça, avec des prix d'entrée à 9 euros, et ça, c'est la clé de tout.
Qu'est-ce que vous pensez de certains commentateurs de foot ou de chroniqueurs qui avaient déclaré qu'ils n'aimaient pas voir les filles jouer ou qu'ils n'aimaient pas entendre la voix d'une femme pour commenter un match ?
Alors, c'est deux choses différentes. S'ils n'aiment pas regarder les filles jouer, c'est leur droit. Personne ne nous y oblige. Moi, il y a des sports que j'aime pas, je les regarde pas. Mmh. Et j'ai pas d'avis dessus, du coup. La voix d'une femme pour commenter, c'est autre chose. Oui, il y a un problème. Le timbre de voix est très important lorsqu'on est commentateur. Les femmes montent beaucoup dans les aigus. Ce que j'aimerais, c'est qu'on l'applique également ce principe aux garçons, parce qu'il y a des garçons qui commentent et qui sont extrêmement pénibles.
Vous avez des noms ?
Oui, bien sûr, je ne les donnerai pas. Mais vous avez surtout des oreilles, je pense. Donc normalement, ça devrait marcher.
On a tous des oreilles. Merci beaucoup, Nathalie Yanetta. Tous les soirs, le MAC de la Coupe du Monde sur TF1. Ça démarre le 7 juin. Ce sera jusqu'au 7 juillet. Merci d'être venue ici à Europe.
Et j'espère que le 7, on retrouvera les Françaises.
Europe 1.
Dans un instant, tout roule. La chronique auto de Pierre de Villeneuve avec une expérience comparée au volant de la Mustang découvrable EcoBoost.
Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 qui se poursuit donc jusqu'à 20h avec vous, Philippe Bondel.
Place à Tout Roule, le magazine de l'auto de Pierre de Villeneuve. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors une chronique un peu spéciale aujourd'hui car il se trouve que nous avons conduit la même voiture et donc on va voir si on a le même avis, ce qui m'étonnerait.
Et cette voiture, c'est la nouvelle Mustang EcoBoost décapotable de chez Ford. Bah oui, les beaux jours arrivent, alors pourquoi ne pas partir en Mustang, je sais pas moi, à Deauville. À l'œil, la Mustang 2019 n'a pas beaucoup changé par rapport à la nouvelle mouture proposée il y a 5 ans. Mais il y avait un problème, c'était de faire rouler une américaine en Europe, où l'essence est plus chère, où le V8 5 litres n'est pas du tout économique. Il y avait bien la version EcoBoost, 4 cylindres hyper puissants sortis du capot de la Focus RS. Mais il n'y avait pas le bruit d'une Focus dans une Mustang. Bah, c'est l'équivalent d'un plat de pâte au beurre dans un restaurant étoilé. Donc, on a progressé là-dessus. C'est le principal changement. Pour le reste, Philippe, allez, à vous l'honneur. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette Mustang découvrable EcoBoost ?
Alors d'abord, comme on l'a prêté, je vais dire que j'ai adoré.
Bon.
En vrai, blague à part, j'ai pas retiré la capote parce que quand je l'ai testé, il faisait pas encore assez chaud pour rouler sans capote. Et je me vois pas faire comme les Allemands ou comme les footballeurs, rouler décapoté pour frimer.
Avec le chauffage.
Avec le chauffage à fond, c'est hors de question. Alors, je trouve que ça accélère très très fort. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a du couple. J'avais un modèle très sportif. Le freinage, je ne sais pas parce que je n'ai pas tenté les situations de freinage d'urgence. Je ne voulais surtout pas me foutre sur le toit et la rendre. C'est un peu la honte pour la station.
Sans la capote.
Mais voilà, sans rien. Et puis l'électronique, il y avait tellement tellement de choses. Je trouvais que c'était contre-intuitif. C'est-à-dire, j'arrivais pas à savoir où j'étais. J'ai l'impression d'être sur un PC au lieu d'être sur un Macintosh où on peut deviner ce qui va se passer. Donc j'ai pas testé tous les modes, mais j'étais absolument ravi du mode sport et j'ai adoré. Mais ça, vous le connaissez mieux que moi, c'est le fait qu'il suffit de mettre le cruise et la voiture vous fabrique votre allure sur l'autoroute et ralentit si devant vous une personne ralentit.
Ouais, ça c'est les limitateurs de vitesse adaptatifs.
Hein. Ça j'ai adoré.
Et ça vous a
Mais
aimé.
Alors vous ?
Alors, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le dilemme, c'est de mettre une voiture américaine en Europe. Ah, c'est à peu près la seule voiture américaine qu'on peut conduire en Europe, parce qu'aux États-Unis, c'est une pony car, donc c'est un poney, donc
ah oui,
par rapport à un cheval. Donc c'est une petite voiture par rapport aux grosses voitures américaines. C'est une voiture de légende. Le côté américain, c'est le clignotant, c'est un tout petit détail, mais vous verrez que quand vous tournez à gauche ou à droite, le clignotant s'allume très longtemps. très longtemps. Ça, c'est typiquement américain. Il y a une longueur
j'ose
de capot.
J'ose rien dire parce que les gens vont penser que je ne mets pas le clignotant pour tourner, donc je ne peux pas répondre.
Il y a une longueur de capot qui est incroyable. C'est-à-dire on a ce grand, grand capot comme dans les années 60. Ça, ça n'a pas bougé. Et ça, aujourd'hui, en tout cas en ville, c'est très handicapant parce que quand on rentre dans des parkings, on ne voit pas la bordure du parking. On a peur de toucher. C'est une voiture qui est très, très longue. Et j'allais dire, cette voiture, c'est une voiture quoique. C'est-à-dire, c'est une voiture américaine, quoique elle marche quand même en Europe. C'est une voiture qui n'est pas une voiture de sport, quoique elle est quand même très, très puissante, vous l'avez dit. Quand le moteur d'une Focus RS, c'est presque 300 chevaux, donc ça avance très vite. En tout cas, moi, je dirais que la Mustang reste un mythe. C'est une actrice, elle a beaucoup eu sa place dans les films et dans les séries télé. Et donc, on pourra, vous et moi, Philippe, confronter nos Mustangs comme, par exemple, deux drôles de dames.
J'adore ce son de trompette. Dans Drôle de Dame, elles avaient des Mustangs.
Ben oui. Toutes les trois, des Mustangs différentes.
Magnifique. Je vais refaire un tour. Merci beaucoup, Pierre de Villeneuve. À la semaine prochaine.
Europe 1.
Dans un instant, une Drôle de Dame, le journal de 19h de Sophie Tussaud. A tout de suite sur Europe 1.
18h, 20h,
Philippe Vandel sur Europe 1.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et on pense à vous si vous êtes en voiture. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour de l'info et des infos. Après le journal de Sophie Tussaud, les sports et la météo, ne manquez pas notre débat consacré aux européennes en France, avec notamment les cataclysmes chez les Républicains et à la France Insoumise, mais également en Europe. Exceptionnellement, ce sera à 19h15, car ensuite on va filer à Roland-Garros pour le bilan de la journée avec Corinne Boulou et notre consultant Cédric Pioline pour son fameux service Pioline.
Et vous pouvez continuer à réagir en publiant un ou plusieurs commentaires sur Twitter avec le hashtag Europe 1. 19h, soyez les bienvenus. Le journal Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Au sommaire de votre journal de 19h.
Bruno Le Maire se rend à Belfort demain. Le gouvernement espère obtenir une baisse du nombre de suppressions de postes sur le site de General Electric. Le mode de calcul des tarifs de l'électricité sera bientôt revu. Annonce de la porte-parole du gouvernement sur Europe 1 au lendemain de la mise en place d'une importante hausse des prix. La contre-attaque de Neymar après les accusations de viol dont il fait l'objet. Vous verrez que cette affaire est vécu comme un choc au Brésil. Et puis attention au traumatisme dentaire chez les enfants. On vous dévoile les bons réflexes à avoir.
Europe 1.
Belfort attend Bruno Le Maire.
Le ministre de l'économie se rend demain après-midi dans le territoire. Une visite sur le site de General Electric près d'une semaine après que le groupe américain a annoncé un gros plan social. Près d'un millier de postes vont être supprimés, dont 800 sur le site de Belfort. Une annonce terrible pour l'usine et la région. Pourtant, Emmanuel Duteil, ce matin, dans les colonnes du journal du dimanche, la direction de General Electric assume parfaitement.
On est droit dans ses bottes du côté de chez General Electric. Le marché des turbines à gaz qui sont notamment produites à Belfort s'est effondré. Il a été divisé par deux en seulement un an. Du coup, la direction assume son plan de suppression de postes. Elle promet que ce n'est pas l'Élysée qui lui a demandé d'attendre les européennes pour faire cette annonce. C'est un plan de réorganisation mondiale, donc ça n'a rien à voir avec le calendrier français, assure-t-on chez General Electric. En tout cas, du côté de l'État, on entend bien demander à l'Américain de limiter au maximum les suppressions de postes, comme vient de le rappeler sur Europe 1 la secrétaire d'État à l'économie Agnès Pannier-Runacher.
On commence à négocier pour que le chiffre soit plus petit, pour que les gens soient accompagnés et pour que General Electric trouve d'autres postes et développe de nouvelles activités pour faire en sorte de minimiser l'impact sur Belfort. Il n'y a que ça qui nous intéresse.
Mais les moyens de pression du gouvernement sont limités. GE, qui n'a par ailleurs pas respecté son engagement de créer 1000 postes nets après le rachat des activités énergie d'Alstom, a dû payer 50 millions d'euros pour alimenter un fonds qui va venir aider justement à la diversification industrielle de Belfort.
Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1.
Le mode de calcul des tarifs de l'électricité va bientôt être revu.
Oui, c'est ce qu'a annoncé ce matin Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, lors du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Une annonce au lendemain de l'augmentation de 5,9% de la facture d'électricité pour 25 millions de foyers français.
cette hausse, on la connaissait, puisque ça n'est pas le gouvernement qui est à l'origine de cette hausse, et elle n'est pas due, et je pense que c'est important de le dire, à une hausse de taxes. C'est une formule de calcul qui est appliquée par une autorité indépendante, la Commission de régulation de l'énergie, qui décide de cette hausse à laquelle nous sommes soumis. Et il faut aussi dire que dans l'avenir, le gouvernement étudiera la possibilité de modifier la formule de calcul. On dispose à l'Assemblée nationale, avec le fameux projet de loi sur l'énergie et le climat, d'une fenêtre de tir pour discuter de cette formule de calcul et que nous la saisirons.
Sibeth Ndiaye sur Europe 1 et la porte-parole du gouvernement s'est également exprimée sur la condamnation à mort de 9 Français en Irak pour leur appartenance au groupe État islamique. 2 nouvelles sentences ont été prononcées ce matin. Sibeth Ndiaye indique que la France, qui est opposée à la peine capitale, intervient au plus haut sommet de l'État irakien et estime que la justice irakienne se fait dans de bonnes conditions.
Beaucoup d'hommages à la suite de la disparition de Michel Serres.
Le philosophe et académicien s'est éteint hier soir chez lui, entouré des siens à l'âge de 88 ans. Tout au long de la journée, politiques, intellectuels et artistes ont salué sa chaleur, son humanisme et son savoir immense, comme Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation.
Pour moi, c'est une espèce de Voltaire des temps modernes. C'est quelqu'un qui, comme Voltaire, avait une culture encyclopédique, une culture très large, qui s'intéressait aux sciences, aux progrès, qui était au fond un homme des Lumières. Quelqu'un qui faisait passer les idées avec le sourire, avec son accent ensoleillé, si je puis dire. Donc c'était à la fois un homme charmant à titre personnel, et en même temps, c'était un des très rares intellectuels français, d'abord à s'intéresser vraiment aux sciences, et ensuite à être un optimiste du progrès, encore une fois un héritier des Lumières, qui est très singulier dans le paysage ultra-pessimiste actuel. À 88 ans, c'est quelqu'un qui s'intéressait au présent et à l'avenir plus qu'au passé. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'était assez admirable et à mes yeux, franchement, sympathique.
Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation, joint pour Europe 1 par Marguerite Lefebvre.
Tout autre chose à présent, le footballeur Neymar qui livre sa version des faits après avoir été accusé de viol.
La star brésilienne du PSG a publié une longue vidéo dans laquelle il clame son innocence et dit être tombé dans un piège. Il montre les échanges publiés avec son accusatrice par téléphone en prenant soin de masquer son nom et son visage. Et cette affaire est vécue comme un séisme au Brésil, comme nous l'explique Isabella Pagliari, journaliste sportive brésilienne et consultante d'Europe 1 sur le football brésilien.
C'était un vrai choc pour tout le monde au Brésil. Déjà parce que l'information s'est dévoilée pendant les matchs, la finale de Champions League. Tout de suite après, son père, il est rentré en direct par téléphone dans une émission télé qui parle des polices et tout ça. Il a expliqué qu'en fait, son fils, il savait déjà, Neymar Junior était au courant de toute la situation. Et que la fille essaye de prendre d'argent de Neymar. Que les avocats de la fille ont rencontré les avocats de Neymar pendant la semaine. Les Brésiliens, au premier moment, ils ont été choqués. Mais la situation a changé parce que Neymar a mis une vidéo en ligne sur Instagram. Il a expliqué. Après les discours de Neymar, les gens, même s'ils sont choqués, ils ont apprécié la façon dont il a expliqué tout ce qui s'est passé. C'est sûrement les avocats qui l'ont conseillé.
Isabella Pagliari, consultante d'Europe 1 sur le football brésilien.
Europe 1.
Quels gestes adopter en cas de choc dentaire de votre enfant ? On vous dévoile les bons réflexes juste après la pause.
Il est 19h07, la suite du journal sur Europe 1, Sophie Tussaud, Philippe Blondel.
La Fédération française d'orthodontie lance un appel à la vigilance concernant les chocs dentaires chez les enfants.
Oui, il faut dire qu'ils sont vite arrivés en jouant ou lors d'une activité physique. Alors quels sont les bons gestes à adopter ? Les précisions de Mélanie Gomez.
Un choc sur les dents ou la mâchoire chez un enfant, c'est toujours une urgence. C'est le message de ces spécialistes qui rappellent que même lorsqu'il n'y a pas de dents cassées, il faut toujours consulter à minima dans les jours qui suivent. Par exemple, chez un petit enfant qui a encore des dents de lait, pour vérifier grâce à une radio que l'accident n'a pas abîmé plus en profondeur les dents définitives en préparation en dessous. Par contre, quand il y a eu de la casse, quand une dent est fêlée ou même entièrement tombée, là il faut voir si possible un dentiste dans l'heure, en n'oubliant pas d'emporter le morceau ou la dent bien conservé, précise le docteur Noémie Schussenberg, chirurgien dentiste.
Quand on a un morceau de dent qui est cassé, bien récupérer le morceau de dent dans un milieu de conservation adéquat. Donc ça peut être du lait, de l'eau, du sérum physiologique ou même la salive tout simplement de l'enfant. Si on n'a rien sous la main, on prend un petit récipient, un verre, un gobelet, peu importe, on fait cracher l'enfant, on met dedans. Et là, oui, on appelle son dentiste et puis le plus vite possible pour la dent cassée.
Enfin, attention à ne pas trop nettoyer la dent qui est tombée. S'il y a un peu de tissu, c'est-à-dire de la chair dessus, surtout n'y touchez pas. C'est cette matière vivante qui permettra au dentiste de la remettre en place dans la bouche de l'enfant dans les meilleures conditions.
Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1.
Et puis le vélo sera à l'honneur pendant une dizaine de jours en France.
Oui, c'est la fête du vélo jusqu'au 10 juin avec de nombreuses manifestations partout dans le pays. Il faut dire que le vélo cartonne grâce notamment à l'essor des vélos à assistance électrique, y compris les VTT. Et pour s'en rendre compte, Rémi Pierre s'est rendu dans le Vercors au Vélo Vert Festival à Villard-de-Lans.
Pour Myriam, adepte du vélo en ville et sur le plat, c'est une révélation. Un tour sur un circuit à flanc de montagne au guidon d'un VTT à assistance électrique l'a convaincue.
C'est super. On reprend plaisir à faire du vélo et partout, quoi. On passe partout facilement et c'est génial.
Julien, lui, a acheté son premier VTT électrique il y a 5 ans après avoir trop galéré sur un VTT classique.
J'en faisais, mais pas assez. Et du coup, à chaque fois que je sortais, je faisais 3 km et j'en pouvais plus. Là, avec ça, je peux faire des boucles de 40-50 km. C'est comme si on nous poussait dans le dos.
Et comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à passer à l'électrique. Guillaume Heinrich, du groupe Bosch, le principal motoriste de ces vélos.
L'année dernière, on a passé la barre des 300 000 vélos à assistance électrique vendus en France. Tout le monde a au moins croisé une fois un vélo à assistance électrique dans la rue. L'assistance a vraiment du sens en montagne. Ça permet vraiment de rouler en montagne, comme vous le ferez sur le plat avec un vélo classique.
Un succès sur lequel surfe aussi le fabricant français de cycles, Lapierre, Dorian Tabou.
Aujourd'hui, nous, c'est environ 30% de nos volumes, 40% en termes de chiffre d'affaires. Il y a 5 ans, c'était 3 fois moins. Clairement, c'est une tendance de fond, c'est plus une niche, quoi.
Des VTT électriques encore chers à l'achat, mais disponibles à la location ici, dans toutes les stations du Vercors. À Villard-de-Lans, Rémi Pierre, Europe 1.
Et c'était le journal de Sophie Tussaud. Merci beaucoup Sophie.
Bonne fin de week-end avec Europe 1, il est 19h10.
La météo, c'est avec vous Valérie Darmon. Question, comment va se passer ce début de semaine ?
Eh bien, sous quelques pluies, puisque nous avons de faibles averses qui vont se produire demain matin du nord de l'Aquitaine à la Bourgogne. On retrouvera quelques averses aussi sur le massif central et ailleurs, la journée qui va se dérouler davantage sous un ciel variable avec de très belles éclaircies. Tout de même, notamment dans l'après-midi, les températures sont en baisse sérieusement, avec 17 à 30 degrés en vallée du Rhône et sur la plaine d'Alsace, 17 toujours pour ces régions de l'ouest et du nord. Mardi, les averses orageuses vont gagner le golfe de Gascogne en début de matinée et vont remonter jusqu'en région parisienne au fil des heures, puis jusqu'à la frontière belge dans l'après-midi. Dans le sud-ouest, le ciel sera couvert, un petit peu pluvieux, et les orages s'étendront jusqu'en Bourgogne et seront peut-être par endroits assez forts. Les régions de l'est, extrême est, sont beaucoup plus calmes, tout comme dans le sud. Les températures seront stationnaires. Ce temps, en alternance avec des pluies et des nuages et quelques rares éclaircies, on va le conserver jusqu'au week-end prochain.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Le journal des sports, encore avec vous Simon Rubin, mais je m'en réjouis. On va commencer par du foot. Dijon et Lens en duel pour se retrouver la saison prochaine en Ligue 1.
Match retour des barrages avec en jeu, vous l'avez dit, la dernière place disponible pour jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Dijon reçoit donc Lens. Au match aller, il y avait eu un partout. Jean-François Pérez, vous allez nous faire vivre cette rencontre ce soir sur Europe 1. Vous êtes au stade pour un match qui s'annonce chaud.
Oui, c'est le calme avant la tempête. C'est dommage que je ne puisse pas vous envoyer une petite carte postale parce qu'on est au bord de la pelouse. Les supporters ne sont pas encore arrivés. Entrer dans le stade, tout à l'heure, ça va être la folie. 16 000 spectateurs ici. On va jouer à guichet fermé. Je suis juste devant le parcage des Lensois. Ils seront 600 ce soir, les Lensois, parce que Dijon a eu la bonne idée, un petit peu roublarde, mais c'est comme ça, de réserver quasiment tous les billets à son public pour ne pas subir la pression du fameux peuple sang et or qui a déjà fait beaucoup contre le Paris FC et contre Troyes pour en arriver à cette finale, finalement, de barrage ici à Dijon. Ça s'annonce chaud, très chaud, brûlant même. Il a fait plus de 30 degrés cet après-midi. Et puis, il y a eu un partout au match aller, ce qui veut dire que Lens devra marquer, devra s'exposer, peut-être au contre-dijonnais. La place en Ligue 1 de l'un ou l'autre club en dépend. Coup d'envoi, 21h. On sera évidemment ici en direct du stade Gaston Gérard avec Gérard Delorme.
Jean-François Pérez, chef du service des sports en direct.
Toujours en foot, les garçons de l'équipe de France jouent ce soir également.
Contre la Bolivie, c'est à Nantes. C'est un match amical et la difficulté, c'est évidemment que ça sent un peu déjà les vacances. Certains bleus ont même arrêté toute compétition depuis presque un mois et c'est dans ce contexte pas simple eh bien, qu'il faut redevenir compétitif. Le sélectionneur Didier Deschamps y veille.
Il y en a certains qui se sont arrêtés le 12 mai, donc ça fait déjà plus de 15 jours, d'autres 10 jours, une semaine. On va gérer ça, mais le match, il est là, évidemment, qu'on va le jouer pour le gagner, parce qu'il n'y a rien de mieux. Mais on s'adapte, mais pour faire en sorte que le groupe soit au top par rapport au premier match qui nous attend le 8 en Turquie.
Didier Deschamps au micro de Cyril Delamorinerie qui vous fera vivre également sur Europe 1 ce soir ce France-Bolivie. Et puis un mot des Bleus de Corinne Diacre. Elle prépare leur mondial avec une absence pour le match d'ouverture. C'est la défenseuse centrale Gria Djembok, blessée au genou. Quant à la capitaine Amandine Henry, elle est toujours incertaine. Elle a le dos bloqué.
On va passer maintenant au tennis, direction Roland-Garros.
Roland-Garros 2019,
jeu, set et match.
L'événement tennis est sur Europe 1.
Les huitièmes de finale aujourd'hui, on va retrouver Christophe Lamarre pour un match dingue, long, plus de 5 heures de jeu entre Tsitsipas et Wawrinka.
Ouais, franchement, c'est exceptionnel. C'est le plus beau match depuis le début de ce tournoi de Roland-Garros. C'est exceptionnel en plus avec deux joueurs qui véritablement mais ne lâchent rien, se rendent coup pour coup. Bien sûr, la formule est un peu facile, mais on voit les coups exceptionnels. Aucun des deux joueurs ne veut céder. Aucun des deux joueurs, évidemment, ne veut montrer le moindre signe de fatigue alors qu'ils sont sur le court depuis plus de 5 heures. Et surtout, ce qui est très étonnant, c'est que le Suzanne Lenglen hésite. Le Suzanne Lenglen ne sait pas qui soutenir. Wawrinka, Tsitsipas, pourvu que ce match dure. Pourquoi pas jusqu'au bout de la nuit. C'est comme si les spectateurs voulaient profiter encore de ce spectacle exceptionnel. Franchement, mais c'est du très très grand tennis. Deux manches partout, 6 partout dans la cinquième et dernière. On n'y a pas de tie-break au cinquième set. Donc ça peut durer encore très longtemps comme ça. Et c'est Wawrinka qui est au service pour poursuivre, pour reprendre l'avantage, 7 jeux à 6.
Christophe Lamarre en direct de Roland-Garros. Et j'ajoute simplement que Federer et Nadal sont passés en quart du côté des garçons. Martic, Konta et Vondrousova chez les dames qualifiées également.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Et c'était le journal des sports de Simon Rubin. Merci beaucoup Simon.
Europe 1.
Avant de retrouver Corinne Boulou évidemment et Cédric Pioline à Roland-Garros, voir les résultats du match, notre page débat du dimanche soir, bilan de cette semaine post-élection européenne avec nos invités. Là aussi, il y a du match. A tout de suite.
Il est 19h18, place notre grand débat d'actu sur Europe 1 dans votre grand journal du soir. Et c'est toujours avec Philippe Andel et ses invités.
Avec Barbara Lefebvre. Bonsoir Barbara.
Bonsoir.
Vous êtes enseignante, essayiste, auteure de « C'est ça la France » sous titre « Qu'a-t-on fait pour mériter ça ?» C'est chez Albin Michel. Et Alexandre Kouchner avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes co-rédacteur-chef de la revue Européen que j'ai ici avec moi. On va évidemment parler des élections européennes qui ont vu la victoire. Je vais faire le classement. Le RN en premier avec 23,34%, d'une courte tête devant La République En Marche, 22,42%. Je donne les chiffres, comme ça on est débarrassé. Les Verts, troisième à 12,48%. Les Républicains et François-Xavier Mélamy, qu'on annonçait très haut, plongent à 8,5%. Puis la France Insoumise et le Parti Socialiste et Raphaël Glucksmann à touche-touche, 6,31% et 6,19% respectivement. Pour commencer ce débat, quel enseignement principal tirez-vous de ces élections européennes, Alexandre Kouchner?
Écoutez, il y a deux échelles à ces élections. D'abord, ce sont des élections européennes, donc on ne doit pas parler que de la France. À l'échelle européenne, il y a désormais un Parlement beaucoup plus politique, beaucoup plus représentatif. On le dit fragmenté, je préfère l'idée qu'il soit plus varié. Et en France, l'enseignement principal, c'est que La République En Marche et son président Emmanuel Macron réussissent leur, comment dire, œuvre de grande recomposition politique. Ils se sont fait élire sur les voies de gauche en détruisant tout ce qui était à gauche. Ils se font désormais élire sur la droite en ratiboisant ce qu'il restait de la droite républicaine. C'est une vraie recomposition.
Barbara Lefebvre.
Moi, ce que je retiens, c'est que le Nouveau Monde a les mêmes habitudes que l'Ancien Monde, c'est-à-dire qu'il arrive à nous expliquer qu'une défaite est une victoire.
Parce qu'ils sont deuxièmes.
Et oui, voilà, grâce aux sondages d'avant-élection qui font monter la sauce, finalement, on crée une espèce de surprise qui n'en était pas vraiment une, puisque finalement le Rassemblement National est arrivé premier, c'est ce qui était de toute façon prévu. Mais Emmanuel Macron nous explique que tout ça, on n'a pas bien compris. En réalité, c'est une formidable victoire de La République En Marche. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi à atomiser la droite. Sauf que la droite, ça fait déjà très longtemps qu'elle est en déclin, même d'un point de vue électoral. Et on pourra y revenir, mais ce serait un petit peu long. Pour moi-même, si vous voulez, d'une certaine façon, la droite, et comme la gauche d'ailleurs, c'est-à-dire l'UMP et le PS, se sont effondrés le 21 avril 2002. Et depuis le 21 avril 2002, ils n'ont cessé de décliner avec des petits sursauts qui ont été l'élection de Nicolas Sarkozy puis celle de François Hollande. Mais au final, M. Macron vient régler et solder les comptes. Mais il a une façon assez habile de nous faire croire que c'est lui qui fait imploser la gauche puis la droite, en réalité, il n'a fait que ramasser les miettes de quelque chose qui était éclaté bien avant lui.
J'explicite pour les plus jeunes, le 21 avril 2002, c'était quand Lionel Jospin n'était pas présent contre toute attente au second tour de la présidentielle qui s'est joué entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Alexandre Kouchner.
Je ne sais pas s'il en est responsable, en tout cas il en est peut-être un peu le déclencheur. François Fillon fait à peu près 20%, François Bellamy en fait 8%. Que s'est-il passé entre-temps ? Eh bien 2 ans du gouvernement d'Emmanuel Macron, d'un gouvernement qui effectivement gouverne d'une manière plutôt libérale, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc eh bien, ce centre de gravité politique se déplace vers la droite, annihilant de fait la forme de droite républicaine et de gouvernement. C'est assez, en tout cas, peut-être pervers, en tout cas machiavélique. Il reste une stratégie, moi ou le chaos. Ouais. C'est moi ou le Rassemblement national, c'est moi ou les nationalistes. Oui. Le vrai problème, c'est que le jour où le moi, le grand moi, éventuellement est en échec, que reste-t-il ?
Ah bah, il nous restera apparemment, pour l'instant, moi, une stratégie que je vois pointe, qui est celle du parti unique. Parce que ça, c'est quand même assez inquiétant. Ah bah écoutez, on est en train de nous expliquer finalement que La République En Marche a ramassé la gauche, est en train de ramasser la droite. Ce qui est vrai, parce que je considère, et d'ailleurs je ne suis pas la seule, Jean-Pierre Mignard qui soutient Emmanuel Macron l'a dit lui-même, c'est l'UMPS, c'est La République En Marche. Donc de toute façon, et d'ailleurs La République En Marche, les Républicains En Marche aussi. Donc allons-y gaiement. Tout le monde va être au sein d'En Marche. Et moi je pense que En Marche peut être effectivement ce grand parti du centre, centre-droit, centre-gauche, où peuvent se retrouver effectivement tous les strauss-caniens, les rocards, tous les Vauquiez, les Sarkozy, les Juppéistes et les Chiraquiens, tout le monde ensemble avec Macron. Et il faut que naissent effectivement 2 autres grands ensembles, que serait une gauche qui serait les insoumis, les écolos non compatibles avec En Marche, les derniers amonistes communautaristes, et puis de l'autre côté, la droite conservatrice qui fait quand même, si on additionne tout, 35% aux européennes.
Mais la gauche, il faut quand même qu'ils arrivent à se mettre d'accord.
Ça, c'est pas de malade.
Oui, avant d'être un parti unique et central qui soit et de droite et de gauche, il faudrait être aussi un peu de gauche. Pour le moment, c'est un peu ce qui manque. Mais il y a.
Ils sont strauss-caniens. C'est la gauche, Strauss-Kahn, il paraît.
Oui, enfin, ils ont un nom de strauss-canien plutôt pour le moment que le nom. Mais en revanche, ce qui se joue à gauche est très différent du scénario à droite. À gauche, vous avez un vote de gauche éclaté, mais qui existe. Si vous faites l'addition des écolos, des amonistes, du PS, vous arrivez à peu près à 25%. Toute la question, pour éviter ce parti unique dont vous parlez à l'instant, c'est l'obligation morale de la gauche. C'est même l'obligation politique, à un moment, que de se structurer. Rappelez-vous quand même que, juste avant les élections, 60% des électeurs de gauche ne voyaient pas la différence entre toutes ces offres politiques. Ils pensent pareil, ils parlent quasiment de la même manière, il serait peut-être temps qu'ils s'entendent.
Et comment vous analysez la dégringolade de Jean-Luc Mélenchon, qu'on disait l'opposant numéro 1 il y a encore quelques mois, et là, son parti est tombé à 6,31% des voix quand on voit le score qu'il avait fait à la présidentielle.
Parce qu'il n'a pas fait du tout la même campagne. La présidentielle, il a fait une campagne populiste de gauche, c'est-à-dire où il essayait de parler effectivement aussi à une France qui est une France des abandonnés, cette fameuse France des outsiders qui sont des déçus de la mondialisation. Il a essayé de reconquérir un électorat, on n'appellera plus ça l'électorat ouvrier, mais quand même, il a essayé de s'adresser à cette population française qui aspire justement à cette gauche-là.
Et pas cette fois ?
Ah ben non, cette fois, on a bien vu aussi la façon dont Mélenchon a conduit aussi les 2 années qui viennent de passer. Il y a quand même une dérive communautariste chez les insoumis qui fait que cet électorat-là n'a pas envie de voter insoumis.
Alexandre Kouchner.
Eh bien, c'est le problème des populismes de gauche quand tout repose sur le leader Massimo. Quand le leader Massimo n'est pas là ou ne va pas bien, le parti va également mal. La France insoumise a toujours refusé de faire des alliances. Elle s'est dit à la fois pour les Gilets jaunes et pour être un parti de gouvernement. À la fin, c'est illisible. Et quand le leader lui-même est mis à mal par des problèmes d'image, souvenez-vous des images terribles de la perquisition, eh bien, quand il va mal, le parti également.
Oui, il a même été critiqué, pardonnez-moi, par Clémentine Autain, qui est députée de la France insoumise, mardi sur Inter. Elle a estimé que si son mouvement n'avait recueilli que ce faible 6,31% des voix, c'est à cause de sa ligne populiste et de sa culture, je la cite, du clash permanent qui a clivé une partie de notre électorat. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, assez d'accord, oui. Mais en même temps, vous parlez de populisme de gauche, mais vous savez, le populisme des riches du centre incarné par le leader Massimo Macron, c'est un peu la même chose aussi. Donc on voit bien qu'on a partout des espèces de leaders Massimo qui tiennent la boutique et si le tenancier de la boutique disparaît, la boutique, elle disparaît avec aussi. Et c'est pour ça aussi que la droite s'effondre, parce que ça fait bien longtemps qu'elle n'a plus un chef pour tenir la boutique et que Nicolas Sarkozy a trahi tellement de gens à l'intérieur de la boutique et surtout a trahi son électorat avec cette campagne de 2007 et cette gouvernance qui a suivi, qui était contraire à sa campagne, eh bien finalement, les Français, il ne faut pas s'étonner qu'ils s'abstiennent autant.
Eh bien justement, on va parler du leader Maximo, Laurent Wauquiez, dans un instant.
Il est 19h27 et vous écoutez votre grand journal du soir. Place à la seconde partie de notre débat d'actu sur Europe 1 avec vous Philippe Bandel et vos invités Alexandre Kouchner, co-rédacteur en chef de la revue Européen, et Barbara Lefebvre, enseignante, auteure d'un livre paru chez Albin Michel et qui a pour titre « C'est ça la France, qu'a-t-on fait pour mériter ça ?»
Je ne sais pas si vous avez vu la une de l'hebdomadaire Le Point qui titrait au sujet du président Macron. Vous voyez sa photo en couverture, celle du président. La droite, maintenant, c'est lui. Est-ce que vous êtes d'accord, Barbara Lefebvre ?
Ben oui, puisque ça corrobore ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais je pense qu'il n'est pas seulement la droite. Il est la droite et la gauche bobo. Donc il est ce que je...
La gauche bobo, elle vote écolo, non ? La gauche bobo, elle vote Mélenchon.
Alors, ça dépend de ce qu'on entend par gauche bobo. Pour moi, gauche bobo, c'est strauss-kahnien,
c'est
hollandais. Ah ben moi, c'est comme ça que je les vois.
Non, strauss-kahnien, c'est plus bourgeois que bohème. Moi, je parle des
types qui se roulent des cigarettes, qui font rire. Vous savez, il y a une partie des écolos qui votent Jadot qui seront capables d'aller voter Macron. Hein. Je pense que ça leur pose aucun problème. Et d'ailleurs, je pense que M. Macron ira draguer les électeurs de Yannick Jadot, si tant est que Yannick Jadot se maintienne aussi haut. Mais en tout cas, oui, qu'il soit un président de droite, mais il est un président de droite et de gauche, effectivement, puisqu'il est un président du centre.
Je ne sais pas si gauche-bobo, c'est un parti politique. Enfin, je veux dire, les étiquettes, comme ça, je ne comprends pas toujours ce qu'elles veulent dire. En tout cas, si on regarde l'électorat, c'est-à-dire les scores, Emmanuel Macron perd à peu près 30% de ses votants de l'élection présidentielle qui sont a priori des électeurs de gauche. Il les regagne à droite, c'est-à-dire qu'il gagne 27% des électeurs de François Fillon. Il y a un déplacement de son cœur électoral qui est évident. Je ne sais pas si c'est lui la droite, mais en tout cas, si on regarde son gouvernement, son Premier ministre est issu de la droite, son ministre de l'économie est issu de la droite, sa politique est plutôt libérale, il y a effectivement un déplacement de son centre politique vers la droite.
Mais voici où je voulais en venir. Donc la droite, c'est plus Wauquiez.
Ah oui, mais ça, la droite...
Comment vous expliquez cette Bérézina ?
Mais ça fait longtemps que la droite, ce n'est plus LR, que la droite, ce n'est plus l'UMP. Enfin, ça fait longtemps que ces partis sont des coques vides pour un vrai discours de droite et une vraie politique de droite. Mais moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que vous évoquiez cette espèce de jeu de bonneteau que pratique M. Macron. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on gouverne la France ? Est-ce que c'est ça l'intérêt de la France ? Est-ce que c'est ça servir l'intérêt national ? C'est un coup à gauche, un coup à droite. La prochaine, c'est quoi ? En fait, tout ça, c'est pour capter des électeurs, pour s'assurer quoi ? Sa réélection en 2022. Mais la réalité, c'est quelle est la politique qui est menée ? Est-ce que cette politique qui est menée, elle satisfait les Français ? A priori, je ne crois pas, parce que, excusez-moi, son socle, aujourd'hui, c'est 22%. Bon, ça casse pas des briques. Et on va nous dire que c'est ça la démocratie représentative. Et les semaines de Gilets jaunes et les autres événements de mobilisation sociale qui vont peut-être se passer encore. Je veux dire, on ne peut absolument pas savoir aujourd'hui, dans 3 ans, où on en sera. Mais je crois que lui, il essaie de préparer sa réélection en jouant comme ça le bonneteau politique, en essayant de profiter d'une explosion et d'une implosion généralisée des partis qui vaut dans tous les pays modernes, hein, dans toutes les démocraties modernes, les États-Unis, partout les anciens partis éclatent.
Pas aux États-Unis, non. C'est toujours les républicains, les démocrates,
non, mais d'accord,
ça n'a pas bougé.
La figure de Trump, c'est un peu particulier, Trump, hein, comme républicain dans le genre, dans
c'est
le style.
C'est vrai qu'il transgresse les républicains,
voilà.
C'est vrai.
Donc il faut quand même un petit peu être prudent et pas avoir l'air aujourd'hui de déclarer que Macron a gagné et qu'on en a pour 10
Alexandre
ans.
Alexandre Kouchner, moi je voulais parler de la droite, mais répondez à Barbara Lefebvre, s'il vous plaît.
Moi je ne fais pas de prédiction parce que ce n'est pas mon métier. Je pense qu'en revanche, quand on joue...
Même ceux dont c'est le métier se plantent.
Oui,
c'est toujours plus sûr.
D'ailleurs, ce serait utile d'y revenir à un moment, mais juste pour répondre à ce coup de bonneteau. Encore une fois, pour aller à droite une fois à gauche, il faut aller une fois à gauche. Pour le moment, on ne peut pas vraiment dire que ce gouvernement ait opéré à aucun moment que ce soit un gros virage vers la gauche. Je ne sais pas si La République En Marche est là pour 10 ans. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la politique qu'il mène et son casting de gouvernement ont séduit une partie de l'électorat de droite. Maintenant, la question, c'est à gauche. Comment on se recompose ? Puisque en déplaçant son électorat vers la droite, il laisse un espace à gauche.
On va parler des Européennes.
Oui, mais il était quand même ministre dans un gouvernement de gauche.
On va parler des Européennes.
Donc il est de gauche aussi.
Je vais essayer de le dire. On va parler des Européennes d'une manière assez étrange, puisqu'il y a un Grec et un Suisse, et ils sont en Roland-Garros.
Europe 1 en direct de Roland-Garros.
Et oui, on fait un point avec vous, Christophe Lamarre. Apparemment, Stanislas Wawrinka est qualifié après un match exceptionnel.
Oui, effectivement qualifié pour les quarts de finale où il aura affronté son compatriote Roger Federer. Un match exceptionnel et de l'avis d'ailleurs d'anciens joueurs. C'est sans doute le plus beau match
de la quinzaine à Roland-Garros. 5-7, 5 heures, ça laissera peut-être des traces. En attendant, ça va laisser beaucoup de très bons souvenirs dans les mémoires de ceux qui étaient sur le Suzanne Lenglen. Dans quelques instants, eh bien, le dernier huitième de finale de la journée entre le Français Benoît Paire et Kei Nishikori. Les deux joueurs sont à l'échauffement. On espère pour eux qu'ils pourront terminer ce soir.
C'était Christophe Lamarre en direct. La suite et fin de notre débat d'actu dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Philippe Bandel, vous êtes avec Barbara Lefebvre, enseignante, auteure du livre « C'est ça la France, qu'a-t-on fait pour mériter ça ?» aux éditions Albin Michel, et Alexandre Kouchner, co-rédacteur en chef de la revue Européen.
Et avant de parler d'Europe, puisque ce sont des élections européennes, on va voir quels enjeux et quelles conséquences au niveau de l'Europe générale. Cette information, Laurent Wauquiez, le patron des Républicains, pardon, non pas de LREM, pardon pour l'absus, est annoncé aux 20h de TF1 ce soir. On ne sait pas si c'est pour annoncer sa démission ou non. Un commentaire sur Laurent Wauquiez avant qu'on passe à l'Europe.
Bah, je pense qu'il ne démissionnera pas. Ce n'est pas tellement dans le personnage et la psychologie de Laurent Wauquiez, à mon avis. Mais par contre, il devrait le faire, oui. Mais pour laisser LR mourir et aller s'échouer sur les rives de l'AREM et puis qu'autre chose puisse se construire.
Alors, le nouveau Parlement européen, pour la première fois, il n'y a plus deux gros blocs droite et gauche, mais une multitude de partis. Le principal parti, le PPE, perd 41 sièges, il tombe à 177 élus. C'est plus lui qui va diriger l'Europe. Que va-t-il se passer, Alexandre Kouchner ?
Eh bien, il va se passer sûrement qu'on aura une Europe un peu plus politique, un peu plus représentative. C'est pas étonnant.
Ça veut dire quoi, plus politique ?
Eh bien, c'est-à-dire qu'on va
ça
se remettre...
Ça veut dire comme la 4ème République avec des partis et les majorités qui se font et qui se défendent.
Non, pas du tout. Ça veut dire à un moment, on va enfin pouvoir reparler du fond, on va pouvoir faire des accords, nouer éventuellement des alliances, projet par projet. Rendez-vous compte, jusqu'à maintenant, deux partis pouvaient se mettre d'accord sur quasiment toute la politique de l'Union européenne. Ça n'a à peu près quand même aucun sens dans une démocratie qui fonctionne très bien. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il va falloir peut-être se reparler. Il va falloir à un moment parler du fond. Pour que vous vous rendiez bien compte de ce qui s'est passé, en 2014, 76% de la population de l'Union européenne vivait dans un pays où le gouvernement dépendait d'un de ces deux partis, c'est-à-dire du PPE ou des sociaux-démocrates. Aujourd'hui, ce n'est plus que 38%. C'est donc tout à fait normal qu'il y ait au Parlement beaucoup plus de représentants. Ce Parlement, il n'est pas fragmenté, il est représentatif.
Et donc, il va falloir faire des consensus. Barbara Lefebvre qui sourit.
Donc, bah oui, parce que ça montre bien qu'il n'y a pas qu'en France, donc il y a un certain nombre de partis traditionnels qui sont en train d'exploser, d'imploser, et que quelque chose se recompose. On voit bien donc que la situation française n'est pas spécifique et que c'est un phénomène général. Effectivement, en revanche, moi je pense que les sociaux-démocrates, les libéraux, dans lequel le groupe ALDE, dans lequel va se mettre la République En Marche, et le PPE, pourront très bien, à eux trois, continuer à faire des petites alliances qui, alors donc, ce sera peut-être pas un duo sociaux-démocrates-PPE, mais ce sera un trio qui fonctionnera très bien et dans lequel, effectivement, d'autres partis, d'autres alliances, notamment dans la droite conservatrice ou dans les écolos et la gauche extrême, ne seront pas partie prenante non plus. Donc je ne sais pas vraiment si ça va être forcément plus démocratique et plus représentatif.
Bah, c'est quand même le principe de la démocratie représentative. Oui, il y a des gens, on envoie un nombre de députés en fonction du nombre de votants qui se sont exprimés
pour
ces listes.
Mais quel est le poids du Parlement par rapport à la Commission ? Quel est le poids du Parlement par rapport aux décisions entre des ministres ? On sait très bien que les Allemands finissent toujours par prendre un certain nombre de décisions en fonction de leurs intérêts propres, et ils ont d'ailleurs bien raison.
Enfin, tout ça est quand même un peu simpliste sur le fonctionnement d'une union qui regroupe 27 pays qui fonctionnent bon an, mal an,
plutôt mal an.
Mais en revanche, le Parlement gagne en pouvoir depuis le traité de Lisbonne. Il doit maintenant co-signer l'intégralité des lois. Il est désormais consulté pour la Commission. Alors effectivement, le poids des nations est encore prégnant, mais enfin ça va plutôt dans votre sens, vous qui préférez du coup quand même ces recompositions nationales.
Oui, mais moi je ne vois pas du tout où les nations pèsent exactement, puisqu'en réalité c'est des coalitions à l'intérieur des groupes de PPE, coalitions entre les différents partis qui sont censés représenter la couleur PPE, des coalitions à l'intérieur des sociaux-démocrates, pour ce qu'il en reste, en tout cas pour les Français. Donc moi, je ne vois pas du tout où est l'intérêt des nations dans cette organisation-là du Parlement européen. Moi, pas du tout. En plus, je vois que le Parlement européen sert systématiquement la soupe à la Commission de Bruxelles. Donc moi, je ne vois absolument pas en quoi
démocratique. Il ne sert pas la soupe. C'est méconnaître le fonctionnement même des institutions européennes. Il n'est pas là pour servir la soupe. Il est le pendant représentatif des exécutifs nationaux.
Ben voilà,
ce n'est
donc,
pas du tout la même chose.
Donc, il ne s'oppose jamais aux décisions de la Commission. Et dans ces cas-là, c'est effectivement toujours la Commission de Bruxelles qui décide pour nous.
Il n'a pas besoin de s'y opposer, puisque s'il ne les signe pas, les directives ne deviennent pas loi.
Mais il les signe forcément, puisqu'ils sont toujours d'accord. Ils sont à l'intérieur même, ils sont majoritaires à l'intérieur du Parlement. Donc, on sait un serpent qui se mord la queue. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que les Français se sont quand même... Même si on dit qu'il y a eu un petit sursaut de participation.
Il y a 10% en plus.
Oui, voilà, mais enfin, c'est parce que ce sursaut-là, c'était un sursaut national, c'était pas du tout un sursaut sur les Européens.
C'est un sursaut à l'échelle européenne.
Dernier petit sujet, Alexandre Kouchner, j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet. On annonçait, parfois vous annonciez vous-même, une vague brune des partis populistes. Si on les additionne, ça fait 175 sièges, presque autant que le PPE. C'est beaucoup, c'est peu. C'est beaucoup, mais c'est une minorité. Ils vont pas gouverner.
Surtout, ils ne sont pas rassemblés.
C'est pour le moment une minorité. Et surtout, ils ne peuvent pas s'attendre. Il y a plein d'enseignements dans cette élection européenne.
Une minute.
Effectivement, la vague brune tant redoutée n'est pas tant venue, puisqu'en réalité, la fragmentation bénéficie aussi à d'autres partis, notamment les Verts. C'est un Parlement qui sera un peu plus représentatif. Ils n'ont pas de minorité de blocage. Reste désormais... pour ce Parlement-là, à faire vivre cette preuve, en tout cas, de démocratie et d'intérêt populaire, il y a quand même 10 points dans plein d'autres pays. Il y a vraiment un espace aujourd'hui citoyen et politique qui se crée en Europe. Le Parlement doit en être au moins à la hauteur.
Barbara Lefebvre,
oui,
c'est vous qui concluez.
Effectivement, j'ai une pensée pour Bernard-Henri Lévy qui s'est démené pendant toute la campagne, qui a parsemé l'Europe pour nous expliquer que, attention, les Hitler de papier allaient venir nous envahir. Eh ben, Bernard-Henri Lévy, heureusement, peut souffler et dormir sur ses deux oreilles. Rien que pour ça, j'ai vraiment chaud au cœur.
Merci beaucoup, Barbara Lefebvre, enseignante, essayiste, auteure de C'est ça la France. Qu'a-t-on fait pour mériter ça? Chez Albin Michel, merci d'avoir été avec nous. Et merci Alexandre Kouchner. Et merci de votre énergie à tous les deux. Vous êtes co-rédac chef de la revue Européen.
Europe 1.
Et maintenant, on va partir à Roland-Garros pour faire le bilan des dernières rencontres du jour jusqu'à 20h avec Corinne Boulou et Cédric Pioline. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Radio officielle de Roland-Garros.
Et c'est avec vous, Philippe Vandel.
Et comme tous les jours, vers 19h40, c'est Service Pioline. On prend la direction de la Porte d'Auteuil, où l'on retrouve Corinne Boulou. Bonsoir Corinne.
Bonsoir Philippe.
Et évidemment, Cédric Pioline. Bonsoir Cédric.
Bonsoir Philippe.
Ah, j'avais peur que vous ne soyez pas remis de ce match absolument incroyable, de ce combat de 5 heures entre Wawrinka et Tsitsipas, que vous-même, vous soyez épuisé sur le dos. Racontez ce match quand même.
Épuisé, en tout cas moins que les deux protagonistes qui
évidemment
ont été sur le court. Ça a été un match superbe, le match je dirais de pour l'instant du tournoi.
Ah oui.
Stan a tenu incroyablement. Enfin voilà, c'est un match qui où il y a eu énormément de rebondissements, des balles de break dans tous les sens, beaucoup de jeux, peu de fautes directes. Franchement, c'était un match à voir. Les gens ont dû se régaler et bien rôtir au soleil.
Pardon, oui, puis on a vu,
Corinne,
Philippe, tous les coups du tennis.
Corinne.
Incroyable.
Pour les gens
oui.
qui nous prennent juste à l'instant, d'abord, rappelez-nous le score. Qui a gagné?
Ah bah alors, je vais vous le donner parce que
important.
5h09,
ouais,
7-6. Bon, Stan Wawrinka, hein, on l'a dit, qui a gagné donc en 5-7. Il élimine Stefanos Tsitsipas, le 6e mondial, le grec, 6e mondial. 7-6. 5-7, 6-4, 3-6, 8 jeux à 6 dans le dernier set. Et ne serait-ce que le deuxième set a duré plus d'une heure, 1h15. Un truc de dingue, un bras de fer. Alors, on l'avait dit hier soir, Philippe, je ne sais pas si vous rappelez.
Bien
mais
sûr.
On l'annonçait.
On attendait ce match. Moi, c'était le match que j'attendais, pour tout vous dire.
Voilà, entre les deux. Et oui, parce qu'on parlera des autres affiches, mais elles étaient un tout petit peu déséquilibrées. Et puis, on vous donnera évidemment des nouvelles du huitième de finale pour savoir qui affrontera Rafael Nadal entre Kei Nishikori et notre Benoît Paire, notre Français, 38e mondial. Mais en attendant, c'est vrai qu'on attendait ce bras de fer. Il a eu lieu et... Franchement, tous les coups du tennis y sont passés parce qu'on avait un Stefanos Tsitsipas très agressif qui allait beaucoup vers l'avant, qui a essayé de terminer beaucoup de points au filet. Stan, on sait, c'est un défenseur hors pair, un revers magnifique. Et franchement, c'est vrai que sur tous les plans de jeu, il y a une tactique incroyable. Ils ne lâchaient rien tous les deux. Rien.
J'adore vous entendre aussi enthousiaste avec tous les deux le nombre de matchs que vous avez vus dans votre vie. Plus, toi Cédric, le nombre de matchs que tu as joué.
pareil, qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans ce match, Cédric?
Bah, c'est en fait, c'est qu'il y avait, tous les ingrédients qui, et le scénario qui font que y a du spectacle, les gens se sont enflammés parce que ça jouait extrêmement bien au tennis. Il y a eu un scénario avec une course-poursuite autour du score. Le grec qui a eu balle de 7 au premier, qui perd 7-6. Ensuite, il arrache le deuxième set à la fin du set. Et puis, on se dit là qu'il prend l'avantage. Et ben non, le Suisse revient et ainsi de suite. Et à la fin... je dirais qu'au cinquième set, il y a eu peut-être même pratiquement plus une petite domination du grec et avec une grande force de caractère, Stan a réussi à arracher ce match et les gens étaient chauffés à blanc par le soleil et par ce qui se passait sur le court. Donc voilà, il y avait tous les ingrédients qui font que c'est un grand match.
Ouais, j'ajouterais, Philippe, quand même, allez-y, que pour Stan Wawrinka, il y avait beaucoup d'émotions parce que il a galéré après avoir été opéré en août 2017 de son genou. Il a terminé l'année 2018 à la 66e place mondiale. C'est un vainqueur de Roland-Garros ici en 2015, finaliste il y a 2 ans. Et bien pour la première fois depuis sa finale, justement, ici il y a 2 ans, et bien il retrouve un quart de finale. Et ça, forcément, ça a joué dans la tête et il ne voulait rien lâcher pour ça aussi.
Allez-y,
Cédric.
Non, j'allais dire que voilà, il revient bien en forme depuis le début de l'année. On sentait sur les tournois précédents que c'était là, ça passait pas encore, mais c'était là et le format pour un joueur tel que lui, le format 5-7, eh bien ça l'aide. Il a souvent très bien joué en grand chelem puisqu'il est multiple vainqueur.
Et là,
attendez Philippe, c'est quand même Federer qui l'attend. C'est donc un quart de finale 100% suisse.
Ah mince.
Ça va être un truc de dingue ça aussi.
Ils sont potes. Ils sont copains. Ils sont comment tous les deux suisses.
Je pense qu'ils s'entendent. Après, quel est le degré d'amitié, ça, je ne le connais pas, mais
ils ont gagné ensemble la Coupe Davis après avoir eu un léger froid. Donc,
il y a un grand. Je pense qu'il y a un grand respect. Il y a un grand respect entre eux. Forcément, le regard a changé, en tout cas du point de vue de Roger envers Stan, à partir du moment où il s'est mis à gagner des grands chelems et que quelque part il se dit il vient sur mes terres. Mais d'un autre côté, moi je pense que jusqu'à la fin de ses jours, Federer devrait envoyer à Noël des chocolats à Wawrinka, puisque quand même les 3 grands chelems qu'il a gagné, ça a été contre Nadal et Djokovic, et dans sa course au plus grand nombre de titres de grands chelems, quelque part il a freiné l'avancée de ses concurrents directs.
Alors on est le dimanche, on est à mi-chemin de ce Roland-Garros. Qu'est-ce qu'il faut retenir jusqu'à présent des premiers huitièmes de finale?
Alors, on l'a dit, donc les qualifications de Stan Wawrinka et de Roger Federer. Sincèrement, Cédric, pour Roger Federer et Rafael Nadal, on a assisté à des matchs à sens unique. Ils ont très vite pris le match à leur compte. Et ouais, l'ascendant. Et sincèrement, même si à certains moments, on a vu Mayer face à Federer se révolter, idem pour Londero, on a vu très beaux échanges. Bon, on les sentait pas en danger.
Ça a été un petit peu à sens unique, encore plus pour Federer, qui a vraiment dominé de bout en bout son adversaire. Nadal a été un petit peu plus bousculé, même si le score est quand même largement à son avantage. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, il y avait des conditions de jeu difficiles à Roland-Garros, à savoir
la chaleur
au-delà de 30 degrés et puis beaucoup de vent.
Voilà.
Et là, donc, c'est tombé, puisque comme souvent en fin de journée, le vent tombe. Mais en plein après-midi, ils ont été quand même assez gênés, je dirais, par ces conditions.
Pour le match entre les Suisses, Wawrinka, Federer, est-ce que ça va jouer contre Wawrinka le fait de s'être battu pendant 5 heures alors que Roger a eu un match presque tranquillou, même si rien n'est jamais tranquillou dans ce sport?
Vous savez, c'est toujours à double tranchant. D'abord, je pense que Wawrinka est fort physiquement, donc je suppose qu'il va récupérer normalement. Alors bon,
il est plus jeune.
Il aura quand même plus jeune, mais quand même plus d'heures dans les pattes que Federer. Et je dirais que l'avantage de Wawrinka, c'est que lui, il a joué Pour le coup, deux matchs d'affilée quand même difficiles, puisque le tour d'avant, Dimitrov, il gagne en trois tie-break. Donc il a joué les matchs difficiles, il a eu ses, comment dire, ce test dans des moments de tension extrême, qui est beaucoup moins le cas pour son compatriote, pour Federer. Donc peut-être qu'à un moment, ça pourra jouer, mais rappelons que lors de sa victoire ici, Stan Wawrinka, il avait battu un certain Roger Federer en quart de finale.
Alors, c'est vrai, sur sa route. Corinne, je m'adresse à vous parce que vous êtes nouvelles. Une fille. Ben oui, je vois les nouvelles du tableau féminin.
Alors oui, alors du tableau féminin, mais comme on parlait des garçons, on va quand même dire un mot de ce huitième de finale en cours, là, le dernier chez les hommes de la journée, entre Benoît Paire, hein, l'Avignonnais de 30 ans, et Kei Nishikori, le japonais tête de série numéro 7. Et le japonais vient de faire le break sur une double faute d'ailleurs de Benoît Paire. Donc il mène 3-2. Nous en sommes au tout début du match. Est-ce que d'ailleurs ce match va aller au bout? Sincèrement, ça a pris tellement de temps, ce Wawrinka Tsitsipas.
C'est une bonne question.
Que, là derrière, ça va être compliqué.
Jusqu'à quelle heure en ce moment? Ça change tous les jours, mais jusqu'à quelle heure?
En fait, aujourd'hui, c'est quand même une journée où le ciel est très clair. Normalement. Alors, le record ici, c'est 21h45 à peu près. Je pense qu'ils iront sans problème jusqu'à 21h15, 21h30. Donc, ça fait quand même encore une grosse heure, trois quarts de jeu, je dirais. Donc, c'est bien. C'est deux bons sets. Comme c'est un jeu quand même assez rapide, hein, Nishikori et Benoît Paire, c'est pas non plus des joueurs qui font des échanges à rallonge, quoi.
Voilà. Alors, voilà, Corinne, donc, est-ce que
pour
cette
le moment,
fois-ci...
3-2 pour le japonais, pardon.
Corinne, vous m'avez quand même interrompu pour me donner des mauvaises nouvelles de Benoît Paire. Donc, je l'oublierai jamais, celle-là.
Mais non, il a encore au moins 2,5 pour se refaire.
Mais je sais. Alors, le tableau féminin.
Oui, le tableau féminin avec les qualifiés du jour. Alors, c'est vrai qu'on regardait tout à l'heure avec Cédric Pioline et on se dit, mais c'est incroyable ce tableau féminin. C'est-à-dire que vous n'avez plus dans le top 10 mondial féminin que trois joueuses de ce top 10 encore présentes dans ce tableau, hein, et notamment Sloane Stephens qui est actuellement face à Garbiñe Muguruza, deux finalistes, deux championnes qui ont gagné des grands chelems. Sloane Stephens pour le moment mène 1-7-0 face à l'Espagnole et elle a fait le break dans le deuxième et elle est au service donc pour tenter de confirmer cet avantage.
Corinne,
ce matin nous avons eu le premier quart de finale entre Petra Martic, dont nous vous parlions hier, qui a éliminé donc l'Estonienne Kanepi. Et ce premier quart de finale, ça sera face à une jeune joueuse, une Tchèque de 19 ans, Vondrousova. Donc là, franchement, c'est vrai que c'est des surprises. Johanna Konta, l'Anglaise, s'est également qualifiée et elle jouera donc face à Stephens ou Muguruza. C'est vrai que là, on assiste à un tableau féminin très, très étonnant. Alors, et pour Simona Halep...
On l'a dit depuis le début, hein, très, très ouvert, avec beaucoup de surprises. Hein. Et voilà, il y aura forcément de la surprise. Mais,
Je vais vous poser une question à tous les deux. Vous l'avez dit, Corinne, trois joueuses seulement du top 10, là encore en lice à Roland-Garros. Est-ce que ça veut dire que ce Roland-Garros est complètement fou chez les filles ou que le classement des filles est un peu hors sol, un peu artificiel et pas carré comme celui des garçons?
C'est même la saison.
C'est la saison qui est comme
C'est la saison féminine qui est comme ça. Il n'y a pas une seule joueuse qui a remporté deux fois un tournoi. Il n'y en a pas une qui, pour le moment, domine, à part Naomi Osaka, hein, qui a gagné les deux derniers grands chelems, mais là, qui s'est fait sortir dès le troisième tour. Il n'y a pas une joueuse qui domine véritablement le circuit aujourd'hui.
D'accord.
Oui, mais ça fait un moment. Hein. Ouais. C'est pas de cette année. Deux, trois saisons où, en fait, il y a quand même un jeu de chaise musicale tout en haut du classement dans les 3-4 premières. Et vous voyez, même une Muguruza qui a gagné un grand chelem, aujourd'hui elle est 19e. Oui, c'est, du coup ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Williams, qui est, bon, évidemment, avec tout le respect qu'on lui doit, vieillissante et qui joue très peu,
qui a été blessée,
qui a eu un enfant. Enfin bon, il y a eu plein d'événements. Et peut-être que Osaka, avec ses 20 ans, elle peut être cette cette dominante en haut de la montagne, ouais. Installée ouais, parce que moi, à la place de numéro 1.
Moi, chez les garçons, je m'étais habitué à la facilité. Il suffisait d'apprendre 4 noms, Federer, Nadal, Djoko et Andy Murray, et on les connaissait tous. Alors, maintenant, tous les deux, le programme pour demain, pour la fin.
Il y a eu Serena Williams chez les filles qui a dominé aussi pendant des années. Hein.
Alors, Corinne,
on l'oublie pas, Serena.
Il nous reste 2 minutes, le programme de demain.
Alors, au programme de demain, nous aurons Gaël Monfils. Gaël Monfils, sur le court Philippe Châtrier, face au finaliste de l'an dernier, l'Autrichien Dominic Thiem. Autant vous dire que là, la marche est haute.
Ça ne va pas rigoler. Ça va être la marche est haute. Le test est important, mais on sait de toute façon qu'à un moment ou un autre, lorsqu'on veut aller loin en grand chelem, comme c'est le cas de Gaël, on doit jouer des gros joueurs dont Thiem fait partie, hein, puisque sur terre battue, je dirais qu'il est dans le top 3. Il y a Nadal, il y a Djokovic et Thiem qui a été finaliste l'année passée ici à Paris. Donc il va falloir en tout cas qu'il aille chercher ce match. Il a tout ce qu'il faut, je pense, en ce moment. Et,
puis en plus, il est chez lui ici. Il adore l'ambiance de Roland-Garros. En général, il se transcende.
Ah oui.
Là, il va falloir sacrément se transcender face à Thiem.
Vous faites très peur, Corinne, parce qu'on a toujours dit justement que les Français avaient justement du mal à Roland-Garros. Justement parce qu'ils étaient chez eux.
Ah non, pas lui.
Ah, pardon.
Non, mais pas lui.
Non, il est régulier, lui. Lui,
quand il est en forme, quand il arrive en forme, et même l'année où il n'arrive pas en forme, il nous fait une demi-finale.
Ouais.
Donc en 2008. Donc, non. Alors là, c'est vrai qu'on était un peu. Il ne nous a pas donné des gages de sécurité avant d'arriver ici, mais depuis le début, il n'a pas perdu un set. Il n'a pas non plus d'adversaires de haut niveau.
Doit, il n'a pas eu des gros adversaires. Il passe de quelque part des joueurs qui étaient largement à sa portée, qu'il a dominé, à quelqu'un qui est sur le papier, en tout cas, hein, attention, plus fort que lui, où il va falloir qu'il gère bien son match. Et ça serait vraiment l'idéal, je dirais, qu'il démarre bien et qu'il arrive à prendre le score pour mettre la pression sur son adversaire.
Mais
moi, je trouve quand même attention à ce que Thiem n'est pas très bien joué depuis le début du tournoi.
Merci beaucoup, Corinne Boulou. Merci, Cédric Pioline. Vous pouvez me donner le score en une seconde de ce qui se passe, Père Nishikori ?
Nishikori, 4 jeux à 2 face à Benoît Paire.
Voilà, on reconnaît le professionnalisme de Corinne Boulou. Merci d'avoir été avec vous deux, c'était un régal. Nous, on vous retrouve demain à 19h40. Et vous, Corinne, toutes les demi-heures en alternance avec Christophe Lamar pour suivre les matchs sur Europe 1. Je le rappelle, radio officielle de Roland-Garros.
Europe 1.
Et maintenant, sur Europe, on va retrouver Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Philippe.
Ah là, il y a deux matchs. Là, ce soir, t'es content. Vous êtes content.
Le programme. C'est fromage et dessert ce soir sur Europe 1. D'abord, France-Bolivie, pour commencer, bien sûr. Ça, c'est le fromage avec le match amical et notamment Mbappé. Et puis surtout, Dijon-Lens, match retour des barrages pour jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Ça va être serré. On va suivre ça avec nos grands débats. On va se régaler.
Merci beaucoup Lionel. On vous écoute. Nous, on se retrouve samedi prochain à 18h. Bonne semaine à tous. J'allais dire à 18h, battu. C'était l'inconscient qui parlait.
Bravo,
salut
Philippe,
Marlène,
salut,
tu n'attendais pas à celle-là.
Ah, oui.
Bonne soirée à tous sur Europe 1. C'était encore une fois un plaisir d'être avec vous.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.